7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, bon réveil, nous sommes le jeudi 28 mars. La dépendance des personnes âgées au cœur de l'actualité ce matin avec ce rapport remis aujourd'hui au gouvernement. C'est un enjeu de société. D'ici 2050, tenez-vous bien, le nombre des plus de 85 ans va tripler et la moitié seront dépendants. Dossier complet sur Europe 1. Et puis à 7h45, immersion dans un EHPAD de la région parisienne, je vous emmènerai à la rencontre des résidents, de leur famille et du personnel soignant. L'interminable feuilleton du Brexit. Theresa May joue son va-tout. Elle s'engage à démissionner si les députés britanniques acceptent de valider l'accord de divorce. Carrefour veut supprimer 1300 postes dans ses hypermarchés. Des départs non contraints, mais qui rentreraient dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. Les syndicats dénoncent un plan social déguisé et appellent à la mobilisation. Voilà pour le programme. Toute la rédaction est sur le pont. Les éditorialistes sont prêts. Hélène Zellani est déjà là, juste en face de moi. Elle vous attend. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 9h. Bon réveil à tous.
Et merci de nous avoir choisis en ce jeudi 28 mars. Bon réveil, il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
A plaisir de vous retrouver, Hélène, bonjour.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Un rapport sur la dépendance remis au gouvernement, immense chantier au cœur d'une réforme prévue pour la fin de l'année. Que ressent-on quand on est très âgé et dépendant? Des aides-soignants peuvent mieux le comprendre grâce à une combinaison spéciale. Les détails dans un instant. C'est non, 8 fois non, les députés britanniques refusent tous les scénarios de Brexit. Theresa May promet, elle, de démissionner si son accord de divorce est accepté. Et puis Arro sur l'accélérateur. Bientôt, nos voitures pourraient nous obliger à respecter les limitations de vitesse. Système automatique qui équiperait les véhicules neufs.
À 8h15, Gérard Larcher, le président du Sénat, sera l'invité de la matinale pour l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara.
Europe 1. Comment répondre au défi de la dépendance des personnes âgées? Épineuse question à laquelle va tenter de répondre le rapport Libault remis ce matin à la ministre de la Santé. L'un des grands enjeux, c'est le maintien à domicile, d'autant qu'on parle beaucoup des dérives dans les EHPAD. Justement, une entreprise spécialisée dans l'aide à domicile a mis au point une combinaison qui permet aux aides-soignants de se mettre pendant quelques minutes dans la peau des personnes âgées dont ils s'occupent. Théo Manval l'a testé pour Europe 1.
C'est comme enfiler le poids des années sur vos épaules.
Ça va bloquer le dos, enfin ça va nous raidir.
Un harnais qui vous tasse le dos, des attelles qui rendent moins mobiles les coudes et les genoux, des lunettes qui réduisent la vue.
Ça va ?
Ben je vois plus...
Pas bien.
En quelques instants, la combinaison vous plonge dans les conditions de vie d'une personne dépendante.
Je vous donne la canne.
Alors ?
Et puis je vais vous laisser marcher.
Tout demande plus d'efforts, se lever, faire des petits pas, ramasser quelque chose par terre.
Tenez, venez vous asseoir.
Laurence Landry est responsable du réseau d'aide à domicile ADAP en Ile-de-France.
Ça permet vraiment de comprendre, parce qu'on a beau le vivre au quotidien, s'occuper de personnes fragilisées depuis des années, quand on l'enfile, on se dit « waouh ». Parfois quand on disait « allez, s'il vous plaît, on se dépêche !» Eh ben non, on comprend, ils peuvent pas.
Et c'est bien pour ça que depuis près de 5 ans, le réseau ADAP fait essayer cette combinaison au plus d'employés d'aide à domicile possible. Et pour son président Damien Cacaret, il faudrait même passer au grand public.
Les proches, les familles, les voisins, parce que le nombre de personnes âgées dépendantes va être multiplié par 2. Et on sait que le domicile va être de plus en plus privilégié.
Si l'on en croit les dernières projections, en effet, la France pourrait compter plus de 2 millions de personnes dépendantes en 2040.
Un reportage de Théo Manval.
Chaque jour, le Royaume-Uni s'enfonce un peu plus dans la crise sur le Brexit.
Le Sun résume ce matin en une ce qui s'est passé hier soir. Je m'en vais maintenant voter mon accord. Theresa May a en effet promis de quitter ses fonctions si son accord de divorce était adopté. Sauf que les députés britanniques n'arrivent absolument pas à trouver de compromis. Ils ont dit non aux 8 options alternatives. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes à Londres pour Europe 1. Quelle conclusion faut-il en tirer ?
Eh bien, ce vote permet déjà d'illustrer une chose, l'incapacité du Parlement et des Britanniques à faire émerger un plan B. Statu quo donc, mais tout de même, cela permet de prendre le pouls. Sans obtenir de majorité, la proposition qui recueille le plus de votes, c'est celle d'un second référendum, suivi de près par la possibilité d'un Brexit allégé laissant le Royaume-Uni dans l'union douanière. Autre enseignement, les députés rejettent massivement l'idée d'un no deal, une sortie brutale de l'Europe sans accord. 400 votes contre. Aux abords du Parlement, des militants pro et anti-Brexit découvrent les résultats et Neil se dit atterré par cette indécision.
Je ressens beaucoup de frustration parce qu'avant, le monde entier nous voyait comme un pays au gouvernement méthodique, pragmatique. Maintenant, on donne l'impression d'être dirigé par une bande de clowns.
Avec ce vote, les députés britanniques entendaient forcer la main à Theresa May. Ils l'ont désormais confortée dans son discours lorsqu'elle affirme que son accord est le meilleur et que c'est son texte ou bien le chaos.
Jean-Sébastien Soldaini à Londres pour Europe 1. Il est 7h03.
C'est une petite fille de 3 ans qui est arrivée hier à Roissy en provenance d'Irak.
Oui, la petite Khadija, elle est la fille de la première djihadiste française condamnée en Irak pour son appartenance au groupe État islamique, condamnation à la perpétuité. Originaire de la métropole lilloise, ses parents étaient partis il y a 3 ans pour les territoires contrôlés par le groupe djihadiste. Hélène Terzian.
À son arrivée, la petite fille a tout de suite été prise en charge par les services de protection de l'enfance de Seine-Saint-Denis. Des médecins doivent l'examiner, des psychologues évaluer son état. Pour l'avocat de la famille, Martin Pradel, il devenait urgent de la rapatrier, vu les conditions dans lesquelles elle vivait en prison avec sa mère.
C'est une petite fille de 3 ans qui n'a absolument pas demandé à être présente dans cette zone. Elle était dans une prison qui n'avait aucun équipement, aucun sanitaire décent. Pour cette petite fille, il y avait un véritable danger à ce qu'elle reste sur place.
C'est maintenant un juge des enfants qui va décider soit de la placer, soit de la confier à sa grand-mère Saïda qui vit dans le Nord et qui réclame depuis longtemps le rapatriement de sa petite fille.
Sa place, elle est à l'école, avec mamie, avec moi. C'est mon souhait le plus cher. Qu'on n'oublie pas sa maman, parce que c'est ma petite fille le jour d'aujourd'hui, elle connaît que sa maman. Je souhaite qu'elle soit rapatriée aussi. On revoit son cas ici en France.
Mais un rapatriement de sa mère Jamila n'a en revanche aucune chance d'arriver. Elle purge sa peine en Irak où elle a été jugée et condamnée à la perpétuité pour avoir rejoint Daesh en 2016 avec son mari et ses 2 enfants.
Hélène Terzian, et c'est la première fois que la France rapatrie un enfant de djihadiste qui n'est pas orphelin. L'inquiétude des salariés de Carrefour, 1300 postes doivent être supprimés dans ces hypermarchés cette année. Selon la direction, ce ne seront pas des départs contraints, mais uniquement sur la base du volontariat. Et puis remaniement en vue d'ici lundi, 3 ministres vont quitter le gouvernement. Nathalie Loiseau pour se lancer dans la bataille des européennes, mais aussi Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi qui seront rivaux dans la course à la mairie de Paris en 2020.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani. Le limiteur de vitesse pourrait devenir obligatoire pour les voitures neuves. On vous dit tout juste après une page de pub.
Il est 7h07, votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. Le Parlement européen veut nous obliger à respecter les limitations de vitesse.
Et oui, Bruxelles va voter le mois prochain un texte qui pourrait rendre obligatoire les limiteurs de vitesse à bord des voitures neuves. Objectif, sauver 25 000 vies dans les 15 prochaines années. Le dispositif détecterait les panneaux et adapterait la vitesse, Jean-Gabriel Bourgeois.
Plus besoin de lever le pied, c'est la voiture qui contrôle la vitesse automatiquement. Des capteurs reliés au GPS reconnaissent les panneaux de signalisation et le véhicule ralentit tout seul. Une avancée technologique qui enthousiasme Chantal Perrichon de la Ligue contre les violences routières.
C'est la fin des radars. Il n'y aura plus besoin de surveiller les vitesses maximales en ce qui concerne les conducteurs. Et d'autre part, ils seront contraints de respecter ces vitesses maximales.
Mais pour Pierre Chasseret, de 40 millions d'automobilistes, l'inconvénient du limiteur de vitesse automatique, c'est le GPS. Indispensable qu'il soit opérationnel.
Ça sous-entend que le GPS soit remis à jour systématiquement tous les jours, parce que sinon un automobiliste pourrait très bien être flashé alors qu'il se serait juste fié à ce que lui disait son GPS. On est toujours sur cette mécanique de l'automatisation qui vise à faire perdre l'usage du véritable rôle du conducteur du véhicule.
Le dispositif se mettrait en marche au démarrage du véhicule, mais le conducteur pourrait le désactiver temporairement en cas de dépassement ou d'insertion dans une voie rapide. Il suffira d'enfoncer complètement la pédale d'accélérateur.
Jean-Gabriel Bourgeois. Une nouvelle défaite judiciaire pour Monsanto. Un tribunal de San Francisco condamne l'entreprise à verser plus de 80 millions de dollars à un retraité atteint d'un cancer qu'il attribue au Roundup, le désherbant au glyphosate. Monsanto compte faire appel.
Et pour bien vous réveiller ce matin, je vais vous emmener au cinéma, mais pas n'importe lequel. Le cinéma du futur, Hélène Zélani.
14 nouvelles salles ouvrent demain à Marseille avec des technologies qui vont révolutionner la manière dont on regarde les films. Visite guidée signée Nathalie Chevance.
C'est une salle de cinéma comme vous ne l'avez jamais vue en France. Ici, pas de fauteuil, mais 33 méridiennes comme des lits, avec plaid et oreiller en solo ou accompagné. Un peu plus loin, d'autres salles proposent des fauteuils extra-larges tout en cuir, inclinables. Pierre-François Duhat, directeur de l'EuropaCorp La Joliette.
C'est regarder le cinéma autrement, dans un environnement très très haut de gamme. Pour un certain prix, vous voyez un film dans des gros cocons d'avion, avec une offre, une coupe de champagne offerte et une collation.
Sans oublier la technologie, salle, image et son Dolby ou 4DX, plein les oreilles, plein les yeux.
La 4DX, c'est les fauteuils qui sont dynamiques, qui bougent en fonction du film. On peut recevoir la pluie, le vent, on ressent vraiment le film. Doublé de la technologie ScreenX, où les murs sont des écrans, ce qui fait une immersion à 270 degrés. Il y en a très très peu dans le monde.
Avec aussi une salle dédiée aux enfants, avec toboggan et pouf géant.
On est dans la salle Kids, donc très colorée, avec des méridiennes. On laissera toujours un petit filet de lumière et le son sera très légèrement revu à la baisse.
Et les premières impressions des visiteurs sont unanimes.
C'est un mélange de concepts. C'est magique.
Et les enfants, ils vont se régaler dans la salle kit. C'est magnifique.
Vous aviez déjà vu une salle pareille ?
Pas du tout, jamais. C'est encore plus de cinéma. Ça change des cinémas de quartier.
Avec en prime à la sortie du film, une grande terrasse accessible face à la mer. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Mais tout ça a un prix. Les sièges dans ce cinéma du futur coûteront jusqu'à 35 euros.
Vous aimez bien les sièges qui bougent ?
Ah, moi, j'ai très envie de tester.
C'est vrai ? Ok, oui. Je vous y emmène.
Ben voilà, j'attendais.
Merci beaucoup. C'était le journal d'Hélène Zélani.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et il est 7h10, c'est l'heure de retrouver quelqu'un qu'on connaît bien, Nico, sur le terrain.
Ah, il bouge. Hein. Il bouge exceptionnellement ce matin. C'est pas Carole, c'est
pas
Mathieu
Martin.
Béliard qui se trouve sur le terrain. Votre voix du grand journal du soir sur Europe 1. Bonjour Mathieu, vous êtes où ce matin ?
Bonjour Nikos, bonjour à toutes et à tous. Bon, la voix est peut-être un peu plus grave à cette heure-ci, évidemment.
Allez,
je suis un
bien.
Petit vénard. Je suis en direct du circuit des 24 heures du Mans, Nikos.
Ouh.
Après le journal hier soir, j'ai pris la route pour en parler, puisqu'ici au Mans se tiennent aujourd'hui les premières assises de l'automobile, l'Automobile Club Ouest France et Europe 1, au Mans, toute la journée, pour questionner cet objet qui fait partie de notre quotidien, qui incarne notre liberté, mais économie, écologie. On est obligé de réinventer la voiture, elle doit évoluer. À quoi est-ce qu'on va rouler demain ? Est-ce qu'il faut jeter le bon vieux moteur thermique ? Quelle place pour la voiture dans la société aussi ? Une journée pour répondre à ces questions avec plus de 400 professionnels du secteur.
Passionnant.
Et deux heures spéciales dès 17h dans votre grand journal ce soir.
Et franchement, là vous êtes tranquille, vous êtes peinard là, sur le circuit. Vous êtes tout seul ?
Ah, si vous n'entendez rien, c'est pas parce que, oui, effectivement, les bolides ne sont pas là sur le circuit des 24 heures, mais c'est que c'est beaucoup mieux que ça. Je suis dans une Navia. La Navia, c'est une navette autonome. Écoutez. Il n'y a rien à entendre.
Ben voilà.
C'est normal, c'est une voiture électrique, donc sans émission de CO2, ça c'est une bonne nouvelle.
Mais qui la conduit ?
Sans volant, sans conducteur, elle est
autonome.
Je suis avec Benjamin Baudet, mais qui est assis comme un passager, comme moi. Bonjour Benjamin.
Bonjour à tous.
Vous êtes directeur général de Berthaud, qui est un opérateur de la Navia. Ça y est, la voiture autonome arrive sur les circuits, bien sûr, mais dans la ville, dans la vraie vie. Vous la testez à Val-Thorens, elle va être inaugurée sur une zone commerciale à Lyon. Est-ce que psychologiquement, les Français sont prêts à se laisser conduire par la voiture ?
Bah écoutez, on a constaté qu'à chaque fois qu'ils montaient à bord, ils ressortaient avec un grand sourire et une bonne dizaine de selfies effectuées. Donc on peut dire que oui, on a une vraie réussite autour de la navette autonome. C'est un véhicule particulier, différent de la voiture, et ça fonctionne.
On va pas battre le record du tour ici sur le circuit du Mans. Hein.
Non,
on est à 25 km/h.
Ouais.
Elle est bridée.
Ouais.
Pour l'instant, c'est des questions juridiques, psychologiques. La voiture autonome est capable de mieux déjà. Hein.
Ouais, c'est plus psychologique que juridique d'ailleurs. Effectivement, l'être humain n'est pas prêt à aujourd'hui monter 80 km/h dans une voiture complètement autonome.
Il faut qu'on la décrive un peu. On est dans un genre de tout petit minibus, un très gros monospace.
On la voit sur Europe1.fr, on vous voit, vous êtes
oui,
bien.
Oui, d'ailleurs, il y a une voiture Europe 1 qui nous filme et qui certainement irait plus vite que nous.
Ah oui, sans aucun doute.
Là on tiendrait à 15. On tiendrait à 15
ouais,
dans cette
11
voiture.
11 personnes assises, 4 personnes debout.
D'accord.
Effectivement, c'est des nouveaux types de gabarits et de véhicules par rapport à ce que l'on connaît dans le transport collectif. Mais oui, ça permet effectivement d'embarquer du monde sur un certain nombre de trajets.
La précision transport collectif est importante parce que la première idée de cette navette pour l'instant, avant que nous n'ayons une voiture individuelle autonome, c'est de transporter des personnes à mobilité réduite, c'est de transporter des personnes isolées. Il y a déjà une utilité et c'est ce qui va se mettre en place rapidement.
C'est ça, effectivement. Nous, au niveau de Berthaud, on travaille sur tout ce qui est PMR, personnes à mobilité réduite, sur des territoires ruraux, sur des territoires hostiles. Vous avez parlé de Val-Thorens tout à l'heure. C'est un des grands enjeux de cette mobilité, hein. C'est effectivement la rendre accessible à tous les territoires et faire en sorte qu'elle ne soit pas que urbaine et qu'elle puisse se déployer aussi bien dans les campagnes, à la montagne, voire dans les stations balnéaires en été.
Alors, le modèle dans lequel nous sommes, Nico, c'est doté de 4 roues motrices. C'est une première, il est présenté aujourd'hui. Il y a des capteurs tout autour de la voiture, évidemment. Je pense que je jouerai cet après-midi à me jeter devant pour voir si elle s'arrête.
Prenez
si
pas de risque.
Safe. Je prends aucun risque. Hein.
Non, pas de problème.
Le jour se lève, vous êtes bien là sur le circuit, hein. Magnifique.
C'est pas mal, hein. Ouais, on voit le soleil arriver au bout du Mans. On va passer la journée au Mans à questionner la place de la voiture dans la société, je le disais, à parler de la voiture autonome, à parler d'énergie, à parler de compétition. Une petite surprise, nous serons avec Bertrand Picard, que vous connaissez, c'est l'homme qui a fait le tour du monde sans une goutte de carburant, juste avec des panneaux solaires. Et il nous accordera quelques minutes à l'occasion de ses assises de l'automobile. Et puis d'ici à ce soir, Nikos, moi je vais faire des tours de circuit dans la
Profitez-en.
Navette. Profitez-en.
Profitez-en, Mathieu Béliard. Merci en direct de la navette autonome Navia depuis le circuit du Mans. Et on vous retrouve dès 17h sur Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, l'édito éco signé Nicolas Barré. Nicolas, les militaires français s'inquiètent à leur tour du groupe télécom chinois Huawei.
Oui, et est-ce qu'on est vraiment armé contre ça, contre les risques d'espionnage ? Eh bien, c'est pas sûr du tout, et pourtant c'est critique.
C'est leur 5G qui fait peur ?
Exactement.
Vous nous direz pourquoi dans un instant. À 7h20, Europe 1 au Qatar sur les chantiers de la prochaine Coupe du Monde de football. Les conditions de travail épouvantables dénoncées par certaines ONG se sont-elles améliorées? Nous avons enquêté dans Europe 1 va plus loin, juste après ça.
Excellent matin à tous sur Europe 1, il est 7h15. Il est 7h17, les principaux titres à retenir ce matin, Nico Seliagas.
Remaniement gouvernemental en vue, il faut remplacer les trois ministres qui s'en vont, Nathalie Loiseau pour les européennes, mais aussi Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi qui espèrent tous deux l'investiture en marche pour la mairie de Paris. Le défi de la dépendance des personnes âgées à l'ordre du jour, le rapport Libo est remis aujourd'hui au gouvernement, il doit donner les pistes de la future loi sur le grand âge. 11 personnes toujours en garde à vue après les agressions visant la communauté rom en banlieue parisienne, des violences sur fond de rumeurs propagées sur les réseaux sociaux.
Europe 1. Et c'est lors de l'édito éco Nikos avec la Banque Rhône-Alpes pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec, comme tous les matins, Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Alors déjà pour la prononciation, mettons-nous d'accord sur la publicité. Les publicités, il est écrit, si je le fais phonétiquement, Huawei. Mais en fait, on dit Huawei.
Exactement.
Huawei, le nom de ce fabricant chinois d'équipements de télécom qui est devenu synonyme d'espionnage, Nicolas. Alors, fantasme ou réalité, en tout cas, les militaires français sont très inquiets.
Oui, et c'est pour cette raison qu'une proposition de loi visant à protéger les intérêts de la défense et de la sécurité nationale française dans le cadre du développement de la 5G est examinée ces jours-ci par les députés. La 5G, c'est quoi? C'est une nouvelle génération de réseaux mobiles qui est prévue à partir de 2020 et qui permettra de connecter beaucoup plus que les téléphones. Toutes les infrastructures sont concernées. Les usines, les hôpitaux, les ports, les objets dans la cuisine, les voitures. La 5G sera partout et aura un rôle critique dans tous les domaines de la vie civile, d'où les inquiétudes si un acteur chinois comme Huawei se retrouve au cœur de ce gigantesque réseau de données.
Oui, a fortiori si le réseau 5G a aussi des applications militaires, en fait, c'est ça.
Oui, parce que vous connaissez bien le dilemme des militaires. Soit ils utilisent un réseau dédié qui est plus fiable mais moins performant, soit on s'appuie sur un réseau beaucoup plus fort débit, la 5G, mais au risque que les données critiques ne soient captées par les grandes oreilles chinoises. À Washington, on surnomme Huawei la NSA chinoise en raison de ses capacités supposées de récupération de données. Huawei, d'ailleurs, a été fondé par un ancien officier de l'armée chinoise. Le chef de l'OTAN, Stoltenberg, a mis en garde les pays de l'Alliance contre Huawei. Le commandant des forces alliées en Europe, le général américain Curtis Capparotti, a même déclaré au Congrès il y a quelques jours « Si vous, les Européens, intégrez la 5G dans vos communications militaires, on ne communiquera plus avec vous. »
Mais que peut faire la loi française? Qu'est-ce qu'on peut faire juridiquement dans notre pays?
Alors, la proposition de loi vise simplement à faire remonter au Premier ministre toute demande d'utilisation de ces réseaux par les militaires. Mais on voit bien que la question va au-delà. Huawei inquiète parce que la loi chinoise oblige les sociétés dont le siège se trouve en Chine à collaborer avec les services de renseignement et à leur fournir à la demande toutes les données qu'ils réclament. Or, la question dépasse évidemment le militaire. Ce sont aussi, bien sûr, toutes les données civiles et économiques en particulier qui intéressent les Chinois. Avec la 5G, l'Europe découvre qu'elle a perdu une partie de son indépendance technologique et donc stratégique. Voilà un sujet dont les candidats aux européennes devraient s'emparer d'urgence et sur lequel on ne les entend pas assez, hélas.
Voilà la téléphonie mobile qui est entrée dans notre vie et qui peut aussi menacer les infrastructures militaires de notre pays. C'était Nicolas Barré pour l'édito Écho.
Europe 1, Nico Saliagas. Et dès 7h20, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin et ce matin, direction le Qatar. À 2 ans du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, les conditions de travail se sont-elles améliorées sur les chantiers?
Et ça fait des années que les ONG dénoncent sur le terrain un esclavage moderne avec des horaires interminables, des conditions de vie épouvantables. Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour.
Vous revenez tout juste du Qatar, vous avez à peine dormi. Est-ce que ça s'est amélioré sur le terrain?
Alors ce qui est certain, c'est que les conditions se sont améliorées ces derniers mois parce que le gouvernement du Qatar a fait évoluer sa loi en supprimant par exemple le système de la kafala qui interdisait à un travailleur de quitter le pays sans l'autorisation de son employeur, souvent en confisquant les passeports. Et l'une des preuves les plus spectaculaires, j'ai trouvé, de ces améliorations, c'est la présence depuis un an à Doha d'un bureau de l'Organisation internationale du travail. Ouman Omaniumpour est en charge du projet et il se bat pour obtenir encore plus de garanties.
Le gouvernement a déjà mis en place un salaire minimal temporaire. On est en train de travailler avec le gouvernement pour avoir une loi de salaire minimal tout court, non discriminatoire, pour toutes les nationalités, pour tous les travailleurs dans tous les secteurs.
Voilà, ça c'est la question des salaires, mais il y a aussi celle des conditions de vie. Ce qu'ils appellent des camps de vie ont été créés, c'est assez nouveau, et certains d'entre eux accueillent même plusieurs milliers d'ouvriers.
Ouais, et j'ai pu visiter une base de vie située à 50 km au nord de Doha. Alors il faut s'imaginer un village, 1200 personnes en ce moment, avec sa petite épicerie, ses équipements sportifs, son cybercafé, sa cantine géante. C'est un camp qui se veut exemplaire, et c'est bien pour ça que Vinci l'a montré à quelques journalistes français. Ces hommes travaillent notamment sur les chantiers du métro de Doha, et vivent ici dans de meilleures conditions que ce qu'ils ont connu avant. J'ai pu interroger Rostin, qui est camerounais, et Ashraf, originaire du Bangladesh.
Les choses ont beaucoup changé ici, particulièrement dans le camp. Ailleurs, là, on retrouve des gens franchement regroupés 6-7 personnes dans des chambres. Alors qu'ici, c'est classe et le nettoyage est de rigueur.
Si on est payé à temps et que le logement est bien, c'est suffisant. On a juste besoin d'argent pour aider notre famille.
Organiser cette visite, c'était donc une réponse aux plaintes déposées par l'ONG française Sherpa, plainte notamment pour travail forcé. Alors Vinci dément fermement ces accusations. Le DRH du groupe Franck Mougin se félicite même que pour la première fois, un audit indépendant réalisé par la Fédération syndicale mondiale des travailleurs du bâtiment a pu être effectué et fait état de bonnes pratiques.
On a mis des clauses sociales dans nos contrats de sous-traitance pour aller auditer sur place que les sous-traitants tiennent bien les engagements qu'ils ont pris dans leur contrat sur les conditions de vie, sur les conditions légales, etc. On ne dialoguait pas assez sans doute avec les ONG, ce que nous avons depuis réalisé.
Et que répond précisément l'ONG Sherpa? C'est tout de même positif s'il y a des améliorations, ce qu'on entend en tout cas.
Voilà, tant mieux s'il y a des améliorations, répond Marie-Laure Guislain, qui est responsable des contentieux au sein de l'ONG. Mais elle souhaite que l'enquête se poursuive suite aux nouveaux témoignages d'anciens travailleurs rencontrés en Inde en septembre 2018.
Si Vinci n'a absolument plus rien à se reprocher, on aimerait que la justice fasse les actes d'enquête que nous lui avions demandé pour ne pas laisser, si elle l'était, impunie une multinationale qui aurait abusé de la vulnérabilité de migrants sur ses chantiers.
La première plainte de Sherpa avait été classée sans suite. La deuxième se fait cette fois avec constitution de partie civile. Le bras de fer entre des ONG et des multinationales est donc loin d'être terminé à un peu plus de 2 ans du mondial au Qatar.
Merci pour cette enquête, Aurélien Fleureau. Et le Premier ministre, Édouard Philippe, verra ça de ses propres yeux puisqu'il arrive justement à Doha aujourd'hui.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, l'innovation du jour avec Anissé Mbida. Je ne sais pas si c'est vraiment un progrès, mais l'Estonie va utiliser un robot pour trancher dans des décisions de justice. Expliquez-moi, je suis un peu...
Allez, soyez patients, encore quelques minutes.
Ah, vous faites durer le suspense?
Exactement.
Vous faites durer le suspense?
On ne saura rien, Nikos.
Ok, café pour tout le monde. On se retrouve dans quelques instants.
Bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 7h24. Et les 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissé Mbida, Nikos.
Et ceux qui ont eu affaire à la justice le savent pertinemment. Il faut parfois des mois, voire des années, avant d'obtenir une décision du tribunal. Et pour réduire ces délais, certains pays ont trouvé apparemment une solution, laisser une intelligence artificielle régler automatiquement le problème pour nous.
Oui, je vois un peu perplexe, mais ça se passe en Estonie, c'est au nord de l'Europe, et ça fait partie d'un vaste programme qui cherche à utiliser l'intelligence artificielle pour mettre un petit peu d'huile dans les rouages de l'administration. Donc l'idée, c'est d'automatiser le traitement de tous les petits litiges, ceux qui sont, où il y a moins de 7000 euros en jeu. Chaque partie enverra ses revendications, ses preuves sur une plateforme, et un algorithme rendra ensuite la décision automatiquement.
Tout est automatique, il n'y a aucun humain dans la boucle?
Alors si, il y a toujours un juge pour superviser, mais vraiment l'idée c'est d'automatiser au maximum. Et le principe est plutôt bien accueilli par les Estoniens, parce qu'il faut dire que l'Estonie, c'est probablement le pays d'Europe le plus avancé en matière d'administration électronique. D'accord. 95% des Estoniens paient leurs impôts en ligne, 40% votent sur Internet.
Bah moi ça me fait peur.
Voilà, je le vois bien.
Je suis encore perplexe, mais bon, en France, le délai moyen pour une décision de justice est presque 6 mois au tribunal d'instance et plus de 15 au prud'homme. Donc bonne chance pour les robots. Merci Anissé Mbida.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr. Dans 2 minutes, le journal de Céline Kalman. Mais tout de suite, on retrouve Laurent Cabrol, Nikos.
Même l'intelligence artificielle tremble devant Laurent Cabrol. Ah oui, Laurent Cabrol, c'est l'intuition, l'expérience, l'instinct.
Ça y est.
Et surtout, le lien puissant avec les auditeurs.
Vous savez, je vais vous prendre comme attaché de presse, vous êtes vraiment extraordinaire.
Je suis votre attaché de presse.
On peut dire.
Chers amis parents, je m'adresse aux parents, tiens, dans notre météo décartable, si vos enfants sont sur le point de sortir pour aller à la garderie, à l'école ou ailleurs, eh bien, donnez-leur une boisson chaude. À Mulhouse, Saint-Étienne, Vichy, Aurillac, Épinal, Bergerac, nous avons des valeurs de 0 à moins 3 degrés. Il ne fait que 1 degré à Strasbourg, 2 à Rennes, 3 à Caen, 4 à Nantes, 5 à Lyon, et quand même 7 à Paris et 8 à Lille. Donc vous voyez qu'il ne fait pas chaud ce matin, mais le vent a tourné, et donc dans l'après-midi, ça ira un petit peu mieux, avec du 12 à Dunkerque, 13 au Havre, 14 dans la capitale, comme à Lille, 15 à Nancy, 16 à La Rochelle, nous aurons à Colmar, Poitiers, Limoges, Nyon entre 16 et 17, à Lyon, Toulouse et Nice, 18, 19 à Marseille et Bordeaux, et même 21 à Cahors et à Montélimar, qui sont les villes les plus chaudes. Alors, du soleil sur une grande moitié sud, un peu le même temps qu'hier, cependant, sur le nord, le Pas-de-Calais et la Picardie, un peu moins de nuages cet après-midi. Là, vous allez avoir une amélioration sensible. Sur Paris, ce sera un ciel parfois voilé, mais dans l'ensemble, ce sera quand même assez lumineux. Voilà pour une journée qui n'est pas trop désagréable.
Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure, avant 8h.
Avant 8h. À suivre, Nikos.
Jean-Michel Apathy à 7h40. Les Roms victimes d'expéditions punitives sur la base de fausses rumeurs, les accusant d'enlèvement d'enfants. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça dit sur notre société? 7h43, Axel de Tarlet, Smart, qui devra bientôt être mangé par les Chinois. La petite voiture ne sera plus produite en Moselle, mais à Hangzhou, qui est la capitale de la province chinoise de Xietang. Et puis à 7h45, je vous ouvre les portes d'un EHPAD de la région parisienne. À la rencontre du personnel et des résidents, le rapport sur la dépendance est remis aujourd'hui au gouvernement parce que d'ici 2050, le nombre des plus de 85 ans va tripler. Excellent réveil à tous sur Europe 1. Merci de votre confiance.
En ce jeudi 28 mars, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Le journal avec Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Casse-tête aujourd'hui pour les parents dont les enfants sont en crèche. Il a fallu trouver une solution car les structures d'accueil des tout-petits sont touchées par une grève nationale. Les professionnels du secteur s'inquiètent des ordonnances qui sont en train d'être rédigées par le gouvernement. Selon eux, trois points sont inacceptables. Non seulement ils dévalorisent leur métier, mais surtout ils mettent en danger les enfants. Ève Roger.
Aujourd'hui, dans une crèche, il y a des personnes très qualifiées, comme les puéricultrices ou les auxiliaires de puériculture, et elles encadrent des personnes moins diplômées qui n'ont, par exemple, qu'un CAP petite enfance. Demain, le gouvernement voudrait assouplir ce système. Certains pourraient occuper des postes sans en avoir le diplôme, simplement sur la base de ce qu'ils ont appris à faire au fil des années. Et ça, les grévistes n'en veulent pas. Deuxième point d'achoppement, le nombre d'encadrants par enfant. Aujourd'hui, il faut un adulte pour 5 petits bébés et un pour 8 enfants plus grands. Trop complexe, estiment les gestionnaires de crèches. Le gouvernement avance donc l'hypothèse d'un adulte pour 6 à 7 enfants, quel que soit leur âge. Inacceptable pour Julie Marty-Pichon du collectif Pas de bébé à la consigne.
Je vous prends juste le temps du repas, par exemple. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec deux adultes pour 12 enfants qui ont besoin de manger entre 11h et 13h. Vous faites comment, quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un bébé, bon, écoute, il faut que tu attendes une heure là, parce que là, je suis occupée avec deux autres et je ne peux pas te donner à manger, quoi.
Enfin, dernier point de désaccord, le nombre de mètres carrés par bébé, il pourrait passer de 7 à 5,5, mais seulement de manière exceptionnelle, précise le gouvernement. Dans le centre des grandes villes, par exemple, là où le mètre carré est rare et cher.
Ève Roger pour Europe 1 à Paris, rassemblement à 10h du collectif Pas de bébé à la consigne devant le ministère de la Santé. Un remaniement attendu dans les tout prochains jours après le départ de trois ministres, Nathalie Loiseau, tête de liste pour les Européennes, Mounir Majoubi et Benjamin Griveaux, qui eux ont décidé de se lancer pour la mairie de Paris. Emmanuel Macron se déplace en Anjou et cet après-midi, il échangera à Beaupréau en Mauges avec une cinquantaine d'enfants qui font partie des conseils municipaux du département.
Carrefour veut supprimer plus de 1300 postes dans ses hypermarchés cette année en France.
Des départs qui concerneraient les secteurs hors alimentaire et qui ne seraient pas contraints. Ils rentreraient dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. Cela veut dire que l'accord doit être signé par des syndicats qui représentent au moins 50% du personnel. Michel Engels, délégué FO, exige des contreparties de la part du groupe.
Beaucoup d'inquiétudes parce que les salariés savent maintenant des types de postes qui vont être supprimés. Sur l'encaissement, sur les stations essence, les postes dans les rayons bijouterie, électroménager, ciné, son, et je dirais tous les rayons non alimentaires ou des magasins. Aujourd'hui, la rupture conventionnelle collective, elle n'est pas pratiquée ou peu puisqu'elle est récente dans la loi. Mais comme les systèmes de plans de départ volontaire, il faut qu'il y ait en face des contreparties dans la négociation. Et c'est ces contreparties qui vont permettre ou pas la signature de cet accord de rupture conventionnelle collective.
Un propos recueilli choisie par Hélène Terzian. Un tournant pour la Smart, la petite voiture va quitter son site de production historique situé en Moselle, fin annoncé entre 2022 et 2024. Après cela, la voiture sera fabriquée en Chine. Le PDG de la marque affirme que tous les emplois seront pérennisés à travers un nouveau projet industriel. Le rapport sur la dépendance est remis aujourd'hui au gouvernement, une problématique particulièrement scrutée. D'ici 2050, les plus de 85 ans seront trois fois plus nombreux en France.
Les manifestations sur les Champs-Élysées à nouveau interdites samedi pour la 20e journée de mobilisation des Gilets jaunes.
Annonce hier de Christophe Castaner. Plusieurs villes craignent elles aussi d'être la cible de violences. Bordeaux pourrait être visée. Ça a déjà été le cas ces derniers mois. Alors la ville se prépare. Stéphane Place a suivi le nouveau maire qui est allé à la rencontre des commerçants.
À l'entrée de plusieurs de ces boutiques dans le secteur de la place Péberlan, les seuils en pierre, les marches ont été cassés, des morceaux qui deviennent le samedi des projectiles. La violence, les heurts, ces commerçants bordelais n'en peuvent plus et le disent au maire de Bordeaux, Nicolas Florian, venu à leur rencontre.
Nous, le samedi avant, c'était notre plus grosse journée de la semaine, qui devient la plus mauvaise.
Si véritablement, pour samedi, les alertes qu'on nous a transmises sont vérifiées, eux, ils se basent sur les mouvements de réseaux sociaux, je pense qu'on mettra en place quand même un système, nous aussi, pour prévenir par précaution les commerçants en leur disant s'il y a un jour où il faut baisser le rideau, c'est celui-là. Bon, on n'en est pas encore là.
Là, de savoir que ça risque d'être plus violent, on va passer encore un samedi angoissé à venir surveiller notre magasin.
De l'écoute, des paroles de réconfort et des dispositifs d'aide aux commerçants sinistrés sur lesquels insiste beaucoup le maire Nicolas Florian.
C'est 500 000 euros de Bordeaux Métropole. La ville, nous avons exonéré pendant deux mois de droit de place nos commerçants, c'est à peu près une aide de 250 000 euros. Et la région a voté une délibération qui prévoit 2 millions d'euros.
Et pour obtenir ces aides exceptionnelles, la mairie propose également aux commerçants un coup de main pour remplir les dossiers administratifs. Bordeaux, Stéphane Place, Europe.
Et hier, quatre gilets jaunes ont été condamnés à Caen à des peines allant de 6 mois à 2 ans ferme, notamment pour des violences volontaires sur des gendarmes. Theresa May l'a promis, elle démissionnera avant la prochaine étape de négociation sur le Brexit si le Parlement vote son accord de retrait négocié avec l'Union européenne. Mais hier soir, les députés ont voté contre toutes les alternatives qu'ils avaient eux-mêmes proposées.
Quelle interminable histoire en Grande-Bretagne. Un mot de football, les footballeuses lyonnaises sont en demi-finale de la Ligue des Champions.
Oui, elles ont battu hier soir les Allemands de Wolfsburg. Les joueuses, ont fêté ça comme il se doit. Voilà. Et pour accéder à la finale, les Lyonnaises vont devoir battre Chelsea le mois prochain. Chelsea qui s'est qualifiée pour la suite de la compétition malgré sa défaite face au PSG 2-1 hier soir.
Vous tapez un peu le ballon de temps en temps, Céline ?
Alors pas du tout.
Merci beaucoup.
C'est dommage.
Céline Kallmann pour le journal de 7h30.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, la politique, Jean-Michel Apathy.
Oui, nous allons parler de cette rumeur qui enflamme la région parisienne. On accuse des membres de la communauté rom de procéder à des rapes d'enfants. C'est faux, mais des citoyens se vengent même. C'est inquiétant, archaïque, et ça dit quelque chose de notre société.
Axel de Tarlé, nous allons parler de Smart,
oui.
De la Smart.
Voilà, je vais revenir sur cette information. Donc la Smart qui sera fabriquée en Chine, c'est malheureusement le signe avant-coureur du grand basculement de l'automobile vers la Chine.
Apathy Tarlé, c'est dans un instant sur Europe 1.
Bon réveil à tous, il est 7h36. Il est 7h38, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Des membres de la communauté rom ont été agressés en début de semaine en Seine-Saint-Denis. On a vu des images tournées sur les réseaux sociaux impressionnantes. Et ça part d'une rumeur infondée qui accuse ces roms d'enlever des enfants. Et les démentis des autorités n'ont rien changé. Oui. Jean-Michel, que dit cette histoire de la société française d'aujourd'hui ?
Elle dit d'abord que la violence peut survenir très rapidement. On parle de la Seine-Saint-Denis, ce sont des communautés humaines apaisées. Les gens sont des citoyens éduqués, ils sont pris dans des liens familiaux, amicaux, ils s'intéressent à leur environnement. Éventuellement, certains d'entre eux doivent participer par le biais d'associations à des aides aux plus démunis, aux plus défavorisés. Et voilà tout à coup qu'une rumeur survient. Ça fait 15 jours qu'elle circule, cette rumeur dans l'est de la région parisienne et notamment en Seine-Saint-Denis. La rumeur des enfants disparaissent, rumeur fantaisiste.
Camionnette blanche qui vient enlever des enfants.
Toujours,
en fait,
on parle d'une camionnette blanche. Enfin, des choses complètement fantaisistes. Et là, tout à coup, des citoyens normaux se transforment en gens extrêmement violents. À Clichy-sous-Bois, par exemple, donc commune de Seine-Saint-Denis, des familles de Roms n'ont dû leur salut qu'à l'intervention des policiers. Parce que venaient vers ces familles des citoyens armés de bâtons. Vous vous rendez compte un peu de l'image ? Il y a eu depuis le début de la semaine plusieurs dizaines d'interpellations par la police et certains de ces citoyens ordinaires, tranquilles, seront jugés pour ces actes-là. Ça déjà, c'est assez sidérant. L'autre enseignement, c'est la disparition des autorités. Parce que vous le disiez, le préfet de Seine-Saint-Denis, les maires des villes concernées depuis 15 jours disent il n'y a aucune plainte pour des rapes d'enfants. C'est simple, aucune, zéro. Donc, pas d'inquiétude. Ces autorités-là ont même fait des mises en garde. Ne menez pas vous-même des actions punitives, sinon vous aurez à en rendre compte à la justice. Ça n'a eu aucun effet. C'est-à-dire que nos sociétés que l'on croit organisées et hiérarchisées se révèlent sans hiérarchie, la hiérarchie est inopérante et elles sont désorganisées. Et puis, ce qui marque surtout les esprits, c'est l'archaïsme, parce qu'on dit qu'il y a les réseaux sociaux. Facebook a développé et amplifié la rumeur. Ouais. C'est vrai, mais ce qui est
important... C'est du fake news, en fait, qui devient
important.
Crédible.
Ouais. Ce qui est important, c'est la rumeur, parce que la rumeur, c'est une vieille et sale compagne des sociétés humaines depuis des siècles. Mmh. Et ni l'éducation, ni l'information n'arrivent à chasser la rumeur des communautés. Quand la rumeur vient, eh bien, elle fait son travail insidieux. Moi, je me souviens de beaucoup de responsables écologistes qui racontent la scène suivante. En cas de crise écologique aiguë, par exemple un jour où il n'y a plus d'eau, en tout cas plus d'eau assez pour tout le monde, eh bien, on verra, disent ces militants écologistes qui veulent sensibiliser les populations, le vernis humanitaire, celui de l'éducation, craquer très vite pour laisser la place à des comportements très archaïques et très violents. Eh bien, en changeant ce qui doit l'être, c'est ce à quoi nous assistons depuis le début de la semaine en région parisienne. Une rumeur s'installe, la psychose gagne et tout à coup, on perd toute humanité et c'est la violence qui s'exprime. Le pire, c'est que l'on est impuissant face à cela et c'est ce à quoi nous assistons. En France, depuis le début de la semaine, c'est quand même terriblement inquiétant.
La rumeur, cette vieille et sale compagne, dixit Jean-Michel Apathy. Axel de Tarlet. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Qu'est-ce qui se passe avec Smart ? Smart va quitter la France ?
Elle va aller en Chine. Donc c'est un coup dur évidemment pour la Moselle et la ville d'Ambar où est fabriquée la petite voiture de place. Donc à partir de 2024, la Smart sera fabriquée en Chine. Alors l'usine française de Moselle ne ferme pas. Elle accueillera le prochain 4x4 électrique de Daimler puisque la Smart appartient aujourd'hui à Daimler, l'allemand Daimler. Vous savez, c'est Mercedes. Mais cette Smart n'a jamais été rentable et donc les Allemands se désengagent au profit donc des Chinois qui, eux, à l'inverse, ont de grandes ambitions pour la petite Smart qui sera 100% électrique. Donc, vous voyez, parfait pour rouler dans les grandes villes encombrées et polluées de Chine. Ouais. Donc, cette future Smart électrique sera fabriquée à Hangzhou. C'est dans les usines du constructeur chinois Geely.
Donc, la Smart va devenir chinoise. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la mainmise des Chinois sur le secteur automobile en Europe ?
Réponse, oui. Clairement, donc là, les Chinois s'invitent chez Smart. Vous savez qu'ils sont aussi les premiers actionnaires de Daimler, de Mercedes. Ils ont 100% de Volvo. Ils sont les premiers actionnaires en France de Peugeot Citroën, 13% du capital. Mais plus grave que cette mainmise capitalistique, il faut redouter la mainmise industrielle. Parce que je vous rappelle que la quasi-totalité des batteries qui sont fabriquées en Asie et notamment en Chine. Et d'ailleurs, justement, si la Smart part à Hangzhou et quitte la Moselle, c'est parce que les batteries de cette future Smart sont fabriquées en Chine. Et donc, vous voyez, autant assembler l'ensemble de la Smart électrique directement en Chine plutôt qu'en Europe. Donc, vous voyez le précipice qui s'annonce. Est-ce que l'avènement de la voiture électrique, est-ce qu'elle va générer d'autres délocalisations ? Et ça, c'est la grande crainte que manifestait le patron de Peugeot Citroën il y a 3 semaines dans le Figaro. L'Europe s'est imposé, dit-il, un virage électrique le plus ambitieux du monde. Très bien, les constructeurs s'adapteront, ils sauront faire, mais, prévient-il, ce ne sera pas sans conséquences sur les usines et les 13 millions de salariés du secteur automobile. Et d'ailleurs, la semaine dernière, Nicolas Barré, chez vous, en parlait, il y a déjà eu en quelques semaines 20 000 suppressions de postes qui ont été annoncées dans l'automobile avec ce virage électrique. Alors vous voyez, la petite Smart qui part en Chine ne pourrait malheureusement être qu'un signe avant-coureur d'un mouvement plus large. Et donc oui, après le textile, après l'électroménager, après l'électronique, ne faut-il pas d'urgence s'inquiéter de ce que l'automobile pourrait maintenant à son tour partir en Chine.
Interrogation, réflexion et analyse d'Axel de Tarlet, Jean-Michel Apathy qui joue pas au Cassandre. Je retiens cette phrase, la mainmise capitalistique de la part d'un pays communiste, c'est le comble du paradoxe et c'est le paradoxe de notre époque aussi. Merci Axel de Tarlet.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, immersion dans un EHPAD de la région parisienne, je vous emmène à la rencontre du personnel, des résidents, de leurs familles, car d'ici 2050, le nombre des plus de 85 ans va tripler et la moitié seront dépendants. A tout de suite.
A tout de suite avec Nico Saliaga sur Europe 1, il est 7h44. Les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
La manifestation envisagée sur les Champs-Élysées samedi dans le cadre de la 20e journée de mobilisation des Gilets jaunes va être interdite, annonce du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Trois ministres ont quitté le gouvernement hier soir, Nathalie Loiseau, Benjamin Griveaux et le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi. Ces deux derniers briguent l'investiture du parti pour les municipales de 2020 à Paris. Theresa May démissionnera avant la prochaine étape de négociation sur le Brexit si le Parlement vote son accord de retrait négocié avec l'Union européenne. Hier soir, situation ubuesque à Londres, les députés ont voté contre toutes les alternatives qu'ils avaient eux-mêmes proposées. Un mot de football en Ligue des champions féminines. Lyon s'est qualifié pour les demi-finales. Le Paris Saint-Germain a été éliminé par Chelsea.
Europe 1. Nico Saliagas, vous nous ouvrez ce matin les portes d'un EHPAD de la région parisienne. Vous êtes allé à la rencontre du personnel, des résidents et de leurs familles.
Oui, car la question de la dépendance est au cœur de l'actualité ce matin. Un rapport est remis aujourd'hui au gouvernement et aujourd'hui plus de 600 000 personnes âgées en EHPAD vivent dans ces établissements. Mais attention, d'ici 2050, le nombre des plus de 85 ans va tripler. La moitié seront dépendants. Cela nous concerne tous, d'une façon ou d'une autre. Et pour les familles, c'est toujours un véritable déchirement de placer un proche dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Pas facile non plus pour les soignants, exposés à des conditions de travail souvent difficiles. C'est parti, reportage.
Immersion dans la résidence Roger Telet avec vous, Nikos.
Je suis devant l'entrée de cette EHPAD de région parisienne. Je vois le directeur juste derrière la porte d'entrée. Nous voici. Bonjour monsieur.
Bonjour Nikos.
Vous appelez Marc ?
Je m'appelle Marc, oui, je suis le directeur de cette résidence.
Vous avez combien de résidents ici ?
Nous avons 120 résidents ainsi qu'un accueil de jour Alzheimer de 12 places. La moyenne d'âge étant de 88 ans.
Quelle est votre plus grande préoccupation concernant votre établissement ?
Faire en sorte d'accueillir des citoyens. Nous ne sommes pas un hôpital, nous sommes un EHPAD, certes, mais une résidence avant tout. Nous sommes l'un des derniers domiciles, sinon la dernière résidence de nos aînés.
Les familles viennent quotidiennement. Est-ce qu'il y a des résidents ou des résidentes qui ne reçoivent personne ?
Il y a malheureusement beaucoup de résidents qui ne reçoivent personne. Voilà pourquoi nous sommes inscrits dans une démarche intergénérationnelle. Nous accueillons énormément de stagiaires, des dizaines de stagiaires de lycées de toute l'Île-de-France qui viennent assurer ce lien intergénérationnel indispensable. Je vous présente Aïcha, qui est actuellement au téléphone, que nous n'allons pas déranger.
Merci.
Ça sonne beaucoup toute la journée au téléphone ?
Oh oui.
Il y a des photos, je vois, derrière, sur le mur. Quelles sont ces photos ?
Qui ont tendance à fuguer, on fait attention. Surtout, nous, on est anciennes, on les connaît. Mais par rapport aux remplaçantes comme ça, elles les connaissent.
Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, monsieur le directeur, quand un résident fugue ?
Je n'aime pas trop le terme de fugue, puisque nous ne sommes pas dans une prison, donc un résident
fait le mur, sort, oublie de rentrer.
Voilà, donc n'importe quel résident a le droit de sortir à n'importe quelle heure, même du jour et de la nuit. Simplement, certains résidents sont atteints de pathologies de type Alzheimer, donc des personnes qui se mettent en danger si elles sortent seules. Donc tout le monde a le droit de sortir en principe seul, mais par exception, les personnes atteintes de certains troubles, certaines démences, sont invitées à sortir accompagnées.
Oui, Anne-Marie, je te passe à l'île.
Bien, poursuivons notre déambulation.
On ne veut pas déranger. Bonjour madame.
Bonjour. Nico Saliagas.
Merci. Qu'est-ce que vous faites ? Je vois que vous dessinez une chouette.
Alors moi, je ne suis pas de la maison, je suis la fille de madame Fabre qui s'occupe, comme elle veut, elle lit beaucoup.
Vous avez quel âge madame Fabre ?
Quel âge vous me donnez ?
90 ans, 88
ans ? Je ne me souviens plus. 96.
96 ans, mais vous ne les faites pas du tout, je trouve.
96.
Qui a décidé d'emmener votre maman ici ?
C'est conjointement les médecins et moi et elle. Étant donné qu'elle devenait très dépendante, ça a resté très compliqué de rester chez elle. Donc j'ai vécu 5 ans avec elle, mais c'était très très lourd à assumer.
Oui. C'est moins lourd ici ?
Oui, beaucoup moins.
C'est-à-dire que je suis dirigée. Voilà. Sans toutefois commander.
Oui, c'est une autoritaire.
Vous savez que quand j'avais 16 ans, j'avais un petit ami qui faisait de l'équitation. Je pesais de l'équitation à 16 ans.
Pour être à la hauteur du petit ami, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce que vous avez pris de chez vous ici, de votre maison, de votre salon ?
Pas grand-chose.
Pourquoi ?
D'une part, il y avait trop de choses à sélectionner. Et moi, j'étais obligée de faire le déménagement toute seule.
Ça, c'était pas facile.
C'était très difficile.
C'est qu'on habitait. Mon père était directeur de la Société Générale. On avait l'appartement de la Société Générale pour nous. On ne payait pas de loyer. Et au lieu de tous les 3 ou 4 ans nous faire changer, on est resté à Tulle.
Elle est beaucoup fixée sur le passé.
Ah oui.
Il y a des images comme ça qui reviennent et qui s'installent.
Oui.
Vous êtes contente de voir votre fille qui vient vous voir?
Ma fille, c'est mon bonheur.
Non, mais je me suis consacrée à elle. Elle a été présente à certains moments de ma vie. Et donc, je suis présente à certains moments de la scène.
Voilà.
Ce que je vois dans vos yeux, c'est que le fait est totalement assumé de vous voir avec votre maman ici, en fait. Est-ce que s'il y avait un pincement au cœur, vous dites « je sors ma mère de chez elle »
J'ai longtemps attendu avant de le faire, mais là, ce n'était pas possible autrement. Mais là, elle est visitée tous les deux jours.
Vous venez ici tous les deux jours, vous ou les autres membres de votre famille?
Voilà. On est bien. Et c'est un bonheur pour moi de venir la voir, parce qu'elle est heureuse, elle n'est pas malheureuse.
On est indépendante.
J'amène des petites surprises à chaque fois. Elle a des journaux, elle fait ce qu'elle veut.
Je vais toujours au concert quand il y en a. J'aime beaucoup la musique.
Qu'est-ce que vous allez voir comme concert, Madame Fabre?
Oh, le piano. Chaque fois qu'il y a des concerts, piano.
Ah, elle adore ça. Elle adore
théâtre.
La musique.
Oui, j'aime bien.
Merci infiniment de nous avoir consacré un peu de votre temps.
Merci.
Portez-vous bien. Alors, je quitte la chambre pour essayer de rencontrer une auxiliaire de vie ou une infirmière. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière?
Oh non, auxiliaire de vie.
Quelle est la différence?
Auxiliaire de vie, c'est celle qui est chargée des soins, qui est plus rapprochée avec les résidents.
Vous faites pas de piqûres, vous, c'est ça?
Non, pas du tout. Pas de piqûres, pas de pansements.
Donc, vous les changez, vous les accompagnez, vous les nettoyez?
Oui. On leur fait la douche, on les stimule à manger.
Vous avez quel âge?
J'ai 23 ans.
Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour s'occuper de personnes âgées et être dans des moments pas toujours faciles, j'imagine, au quotidien?
Être patiente, à l'écoute des résidents, les accompagner, être là quand ils en ont besoin.
Il y a des moments difficiles?
Oui, des fois on a des résidents pas toujours faciles, agressifs, et voilà.
Quand on passe du temps avec des personnes âgées, est-ce qu'on grandit aussi?
Bah oui, parce qu'on apprend beaucoup de choses avec eux. Ils nous racontent beaucoup de choses de la vie ancienne déjà, que nous, on ne connaît pas maintenant. Qu'ils ont vécu plus de choses graves que nous. Eux, ils ont vécu la guerre. Quand ils nous racontent, ça fait peur. Donc nous, on est bien par rapport à eux.
Merci Fatima.
Je vous en prie, monsieur.
Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de la société, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes? Quand on est ici, dans cet établissement, vous le dirigez, Marc Fernandez. Qu'est-ce que ça dit de l'état du pays?
Écoutez, un pays recroquevillé peut-être sur lui-même et beaucoup plus égoïste. Malheureusement, nous voyons très peu de petits-enfants qui viennent rendre visite à leurs aînés, sauf un petit peu peut-être le mercredi, mais encore, pas tant que ça.
Qu'est-ce que vous attendez, Marc, de la loi santé, justement, et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, vous?
Écoutez, des effectifs, que la question du sujet âgé redevienne au premier plan dans notre société.
Vous avez quel âge?
J'ai 48 ans.
Et alors, dans votre tête? Le fait de côtoyer des personnes qui ont 104 ans, 98 ans, 88 ans, ça rend plus humble, ça rend plus mature?
Pas réellement. Je considère mes pensionnaires comme mes semblables, donc je me place sur un plan d'égalité. Je ne les regarde pas comme des enfants, voilà, ce sont des personnes clairement âgées, avec leur expérience. Mais au quotidien, je m'efforce de les considérer comme moi-même, comme un adulte, comme un citoyen.
Merci Marc Fernandez de nous avoir reçus aujourd'hui dans votre établissement ici.
Merci beaucoup, Nikos.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà pour cette immersion dans un EHPAD de la région parisienne. Et le rapport sur la dépendance sera remis aujourd'hui à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Il y a eu des rencontres magnifiques. On ne peut pas toutes les diffuser ce matin. Mais une chose est sûre, on ressort de cet établissement en ayant chaud au cœur.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre l'interminable feuilleton du Brexit. Theresa May joue son va-tout. Elle s'engage à démissionner si les députés britanniques acceptent de valider l'accord de divorce. Explication dès le début du journal de 8h avec David Doucan. Et puis dans une minute, la petite histoire avec Jean-Philippe Ballas. Le divorce entre Madonna et son pays de résidence, le Portugal. La chanteuse fait ses valises. Obrigado, bon dia.
A tout de suite avec Nico Saliaga sur Europe 1, il est 7h55. Il est 7h57, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Vous savez quoi, tous les jours, juste avant 8h, Jean-Philippe Ballas arrive avec cette petite histoire qui fait réfléchir, sourire, et ce matin, direction le Portugal, un nom, un seul, Madonna.
Ouais, oubliez tous vos repères, les amis, nous entrons dans un univers parallèle où rien n'est impossible, à mille de nos petites considérations terriennes. Bienvenue dans le monde de Madonna. La Madonna, donc, qui vit depuis 2 ans au Portugal et qui tourne un clip ces jours-ci à Sintra, c'est près de Lisbonne. Pour le scénario, elle a une idée, que dis-je, une vision. Madonna veut surgir dans un palais magnifique du XVIIIe siècle, mais forcément, elle veut le faire en mode Madonna. À cheval qu'elle veut entrer dans les salons du palais. La Quinta Nova de Assunção, c'est le nom de ce monument qui servirait de décor, hyper classe, admirable, oui, mais fragile, protégé. Et là, c'est le drame. Le maire de Sintra va dire non, les amis, non à Madonna. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Quoi ?
En même temps, c'est du bon sens. Oui, le plancher, le parquet ne supporterait ni le poids, ni les sabots d'un cheval. Bref, inutile d'insister. Il y a des choses qui ne s'achètent pas, répond sèchement monsieur le maire. Résultat, bah Madonna va faire ses valises. Vexée, manifestement, retour aux États-Unis. Après tout ce que j'ai donné au Portugal, aurait-elle dit à son entourage. Quelle ingratitude. Oui, je sais, c'est ce qu'on appelle une diva. Mais moi, je le dis ce matin à Madonna. Vous pouvez entrer dans ce studio ici à Europe 1, à cheval, quand vous voulez. Parce que vous savez quoi, on vous aime aussi pour ça.
Jean-Philippe Ballas pour la petite histoire avant le journal de 8h. Vous entendez ça, Laurent Cabrol? Madonna quitte le Portugal.
Elle pourrait s'installer
où aujourd'hui en France, en ce jour où il fait beau quelque part en France? Dites-nous, où est-ce qu'elle pourrait aller Madonna aujourd'hui?
À cheval, vous le dire.
Je sais pas, dans le sud, du côté de Nîmes, il fait chaud.
Oui, non, il va faire bon à Nice aujourd'hui, enfin ce matin, et cet après-midi aussi. Il va faire bon à Cahors, Montélimar, Marseille, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Nice, énormément de villes de la moitié sud, puisque c'est le beau temps qui règne sur la moitié sud, donc pas d'inquiétude pour nos amis sudistes ou méridionaux, puisque pratiquement ils auront le même temps qu'hier. D'ailleurs, sur la moitié nord, c'est un peu la même chose. Hein. Mais sur le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, vous aurez un peu moins de nuages cet après-midi. Sur Paris, ce sera lumineux, même si c'est loin d'être limpide. Sur la Normandie et la Champagne-Ardenne, un peu le même tabac. Mais l'ensoleillement sera globalement présent quand même, malgré quelques réticences sur la Bourgogne, l'Orléanais et la vallée de la Loire. Voilà pour une journée sympa. Demain, ça sera pas mal non plus. Samedi, ça sera idyllique et ensuite, ça va se gâter. On en reparlera tout à l'heure.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. À tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui la Saint-Gontran et c'est le 87e jour de l'année.
Le jeudi 28 mars. Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 8h, bienvenue à vous. Votre matinale info continue avec Nikos Aléga jusqu'à 9h.
Le journal de 8h est présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Toute l'actualité avec vous.
Est-ce une comédie britannique ou juste une réalité politique inextricable? Les députés ont dit non à toutes les questions qu'ils s'étaient posées à eux-mêmes. Theresa May promet de démissionner s'ils adoptent enfin son accord de Brexit. Nous serons à Londres dès le début de cette édition.
Et juste après le journal, ne manquez pas l'analyse de Vincent Hervouette.
Trois ministres en moins, un remaniement et une guerre de tranchées pour la mairie de Paris. Voilà le programme pour la Macronie. Les informations du service politique d'Europe 1 dans un instant. Et puis un peu de musique, Nikos. Du piano, le virtuose chinois Lang Lang sort un nouvel album. Vous entendrez l'artiste à la fin de ce journal.
8h15, André Crespo-Mara reçoit Gérard Larcher. Beaucoup de choses à dire ce matin avec le président du Sénat.
Europe 1. Le feuilleton du Brexit tourne-t-il à la mauvaise blague? Hier, les députés s'étaient posé 8 questions pour trouver une porte de sortie. Ils ont dit non à tout. Ni nouveau référendum, ni maintien dans le marché unique, ni Brexit dur. Aucune solution n'a trouvé de majorité. De son côté, Theresa May abat sa dernière carte. Elle promet de démissionner si le Parlement adopte son accord de divorce. Et même ce sacrifice semble inapte à faire bouger les lignes. Reportage de notre envoyé spécial à Londres, Jean-Sébastien Soldaini.
Les militants massés aux abords du Parlement ont accueilli l'annonce de Theresa May dans une quasi-indifférence. Bon débarras, semble même dire Michael, partisan d'un Brexit dur.
Elle va partir d'une façon ou d'une autre, elle va partir. Si elle perd son vote, elle s'en ira. Elle est ridicule qu'elle parte. Elle est pathétique. Elle n'aurait jamais dû être Premier ministre. La politique de notre pays est complètement détruite. Elle a tout foutu par terre.
Avec son bonnet aux couleurs du drapeau européen, Jenny non plus ne regretterait pas le départ de Theresa May, mais elle redoute que cela crée encore plus de problèmes.
Ils n'ont toujours pas réglé le Brexit. C'est ça le plus important, pas la succession de Theresa May. Nos politiques doivent agir en adultes. Ma crainte, c'est qu'on passe les prochains jours à savoir qui va prendre sa place au lieu de nous sortir de ce problème. De quoi on a l'air?
Theresa May a beau mettre sa démission dans la balance, à ce stade, ça ne permet pas de bouleverser les équilibres. Londres, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Deuxième défaite judiciaire pour Monsanto. La justice américaine a condamné le producteur du Roundup à verser plus de 80 millions de dollars à un retraité malade d'un cancer attribué aux désherbants à base de glyphosate.
La vie politique en France, trois ministres en moins et des ambitions.
Oui, Nathalie Loiseau, bien sûr, pour mener la bataille européenne. Mais hier, l'Élysée a mis fin aux fonctions de Benjamin Griveaux, le porte-parole, et de Mounir Majoubi, le secrétaire d'État à Bercy. Ils veulent tous les deux conquérir Paris en 2020. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Mickaël, pourquoi cette décision d'Emmanuel Macron ?
Bah écoutez, c'est simple. Pour Loiseau et Griveaux, c'est un départ avec bénédiction. Et pour Majoubi, c'est une sortie en forme de sanction. C'est la raison pour laquelle, justement, alors que les candidats annonçaient chacun un petit peu de leur côté, leurs intentions et leurs ambitions, mais l'Élysée a voulu remettre de l'ordre hier soir. Ceux qui sont candidats quittent le gouvernement. On le savait pour Benjamin Griveaux, il avait toujours dit. Mention spéciale, effectivement, pour Mounir Majoubi, qui lui ne voulait pas quitter le gouvernement tout en étant candidat. Donc Emmanuel Macron lui a demandé d'être cohérent, d'autant qu'au gouvernement, on va le dire, on n'a jamais été bluffé par les capacités de travail sur le secteur du numérique de Mounir Majoubi. Donc on voit bien que cette décision est aussi motivée par cela. Mais le plus notable reste quand même cette décision de lancer la bataille de Paris alors que celle des européennes est à peine lancée pour le 26 mai.
On va tout droit vers une guerre de tranchées entre macronistes, c'est ça qui se dessine ?
Sur Paris, écoutez, ils auraient presque pu faire une primaire, l'embouteillage de candidats à l'investiture dans la capitale montre bien que la bataille de Paris sera le lieu d'une bataille symbolique pour le quinquennat Macron. On sera à 2 ans de l'élection présidentielle. En attendant, le parti devra décider qui investir. Benjamin Griveaux continue à rassembler des soutiens dans son camp, mais aussi en dehors, parce qu'on sait que Paris, c'est un jeu politique extrêmement complexe. L'ancien porte-parole pourrait officialiser sa candidature donc d'ici la fin de la semaine. Puis il soutiendra la liste Renaissance, là où en même temps fonctionne plutôt bien pour l'instant, alors qu'à Paris, pour l'instant, entre marcheurs, on dresse plutôt la liste des méfiances.
Merci à vous, Mickaël Darmon. L'investiture pour Paris, c'est en juin, c'est bien ça.
Absolument.
Vous le confirmez. Sachez par ailleurs que nous assisterons ce dimanche à un déplacement commun. Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy. Nul doute que cela donnera lieu à de nombreux commentaires. Ils se rendront ensemble sur le plateau des Glières en Haute-Savoie, au lieu de la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelle que lorsqu'il était chef de l'État, Nicolas Sarkozy allait s'y recueillir chaque année.
Moment fort hier lors du procès de Bernard Tapie.
Oui, l'homme d'affaires faisait face à son ennemi juré, l'ancien patron du Crédit Lyonnais, Jean Perlevade. Et Bernard Tapie a été submergé par l'émotion. Le récit de Chloé Triomphe.
Tout a commencé par un regard rempli de rancune de Bernard Tapie à l'égard de Jean Perlevade à son arrivée. Mais alors que l'audience s'éternisait, Bernard Tapie s'est levé pour une brève déclaration face à son ennemi juré. La voix nouée entre la colère et les larmes à fleur de peau, Bernard Tapie s'est emporté. « Je vous ai fait gagner beaucoup d'argent avec Adidas, plus que toutes mes dettes. Vous avez écrit mon nom sur une poubelle, c'était affiché partout. » Allusion à une caricature du Lyonnais. « Mes enfants l'ont vu, vous n'avez pas honte, c'était pour m'humilier, pour me tuer. » Tapie, hors de lui, poursuit. C'est ce qui va finir par m'arriver. J'espère que vous saurez au fond de votre conscience que vous êtes le premier responsable de ce qui m'arrive, lui assène-t-il en référence à peine voilée à son cancer. Moment suspendu dans la salle avant que Bernard Tapie se rassoie, épuisé en lâchant « salopard, pourriture ». Sans un mot, sans un regard, les deux hommes ont quitté la salle. Après un ferme rappel à l'ordre de la présidente, « Monsieur Tapie, maîtrisez-vous ». Les débats se termineront demain avant le réquisitoire prévu lundi.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Des gilets jaunes ont demandé à pouvoir manifester sur les Champs-Élysées. Après-demain, pour leur 20e samedi de mobilisation, le secteur sera au contraire interdit. À tout rassemblement, a annoncé Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur a justifié sa décision en parlant d'une provocation propice à de nouvelles violences.
Europe 1.
On en parle depuis ce matin. Le blues des aides-soignants à suivre dans la matinale. Ils ne supportent plus leurs conditions de travail dans les maisons de retraite, notamment. A tout de suite dans le journal de David Toucan.
8h07, votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec David Doucan. Les aides-soignants n'ont plus le moral.
Oui, en particulier dans les maisons de retraite ou les EHPAD, c'est un problème majeur puisque nous sommes face au défi de la dépendance. Un rapport est d'ailleurs remis aujourd'hui à la ministre de la Santé. Un projet de loi sera présenté à l'automne. Mais en attendant, les sous-effectifs, les conditions de travail poussent de plus en plus d'aides-soignants à jeter l'éponge et à se reconvertir. Reportage en Loire-Atlantique, François Coulon.
Il s'est donné à fond pendant 10 ans et espérait devenir un jour infirmier. Johan avait la vocation d'être soignant, mais les sous-effectifs, la course et ce sentiment d'être parfois à la limite de la maltraitance l'ont fait craquer. Il est aujourd'hui chauffeur routier.
Je voyais des gens qui n'étaient pas coiffés, qui ressortaient de leur chambre sans leur dentier. Tout était fait dans la course. J'ai pris un arrêt de travail pour burn-out. Il fallait que j'arrête mon métier d'aide-soignant, puisque c'était absolument plus les valeurs pour lesquelles moi j'avais choisi ce travail. Et actuellement, je suis chauffeur. Ça fait du bien. J'ai plus cette pression, ce stress. J'ai l'impression de revivre.
Vous êtes nombreux à déserter ?
Personnellement, j'en connais au moins une dizaine qui ont arrêté.
Résultat, depuis 4-5 ans, une véritable hémorragie, en particulier dans les maisons de retraite. Alexandre Delmas, directeur de l'EHPAD de Sainte-Pazanne.
Tous les ans, on perd 2-3 personnes qui souhaitent carrément changer de métier, préfèrent aller travailler au drive ou caissière au supermarché d'à côté, en rame en permanence.
Une vingtaine d'aides-soignants ici, 1 sur 4 n'est pas diplômé, nous sommes contraints à l'illégalité, déplore le directeur. Sainte-Pazanne, François Coulon, Europe.
Et nous venons d'en prendre connaissance, la marine maltaise annonce avoir pris le contrôle d'un pétrolier ravitailleur. Figurez-vous que le navire avait été détourné par les migrants qu'il avait secourus. Au large de la Libye, le bateau, son équipage et tous les pirates présumés sont actuellement escortés vers Malte pour être remis à la police qui fera la lumière sur cet événement.
David Doucan. Oui. Cher David, vous nous aviez promis un peu de musique, alors allez-vous la musique?
Je tiens mes promesses, c'est la musique d'un virtuose, le pianiste chinois Lang Lang, qui sort un nouvel album, un génie. Il y a du Mozart, du Bach, du Beethoven dedans, et même du Jan Tiersen, vous vous souvenez d'Amélie Poulain, sans doute. Un disque qui donne envie de jouer du piano, selon Thierry Geffrotin qui a interviewé l'artiste.
Je voudrais que les gens découvrent mes morceaux préférés, ceux que j'ai joués au début de ma carrière. J'ai aussi choisi des pièces de virtuosité que mes voisins n'aimaient pas, comme l'étude de Czerny. Je les comprends d'ailleurs. Mais maintenant, je la joue comme une composition artistique plutôt que comme un exercice. Nous avons des pièces de compositeurs français, trois de Debussy et aussi une composition d'Yann Tiersen tirée du film d'Amélie Poulain qui est l'un de mes préférés. C'est vraiment un très beau morceau.
Moi je ne reprends pas parce qu'on a envie d'écouter un petit peu.
C'est vrai, ouais.
Voilà. Cette interview du génie Lang Lang réalisée par Thierry Geffrotin du service culture d'Europe. Un mot de football féminin, Nikos ?
Allez-y !
La Ligue des Champions, les Lyonnaises se sont qualifiées pour les demi-finales. Elles ont battu les Allemandes de Wolfsburg hier, 4-2. En revanche, les joueuses du Paris Saint-Germain ont été éliminées malgré une victoire de 1 sur Chelsea hier soir en quart de finale retour.
Le journal de 8h vous était présenté par David Doucan.
Si vous souhaitez réagir à l'actualité, écrivez-nous sur Twitter avec l'hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 8h11, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Nikos.
Mais que se passe-t-il à Londres? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que cette cacophonie? Theresa May prête à démissionner pour sauver l'accord sur le Brexit.
Vous savez, les Anglais font tout à l'envers, alors ils roulent à gauche même quand ils font du chantage. Theresa May n'a pas menacé « faites ceci ou je claque la porte », c'est le contraire, elle dit « faites ceci et alors je claquerai la porte ». Theresa May démissionnera si les députés votent enfin son Brexit. Elle y a sacrifié 3 ans, elle est prête au sacrifice suprême, ce sera un soulagement général. Il faut être désespéré pour en arriver là, être seul au monde, avoir perdu toute vanité. Theresa May n'en a plus aucune. Ce n'est pas elle qui pleurnichera sur le perron en se faisant applaudir après avoir rendu son tablier. Never complain, never explain. Elle n'est pas du genre non plus à se pavaner dans les médias après avoir quitté le gouvernement. Ce n'est pas un secrétaire d'État en campagne à Paris. D'ailleurs, personne ne l'invitera. Elle va traverser le désert. On ne peut plus la supporter. Les députés ont retoqué 2 fois son deal. La première fois en janvier, parce qu'il réclamait des progrès sur le filet de sécurité. Vous savez, ce truc horrible qui doit effacer la frontière entre les deux Irlandes sans en construire une entre l'Ulster et la Grande-Bretagne. Les Anglais y voient une prison normale, ils conçoivent tout à l'envers. La deuxième fois, il y a 15 jours, ils ont voté contre parce qu'ils n'ont pas compris le truc encore plus horrible qu'est le protocole additionnel, l'instrument d'interprétation qui est censé clarifier le filet de sécurité, mais qui est encore plus obscur que les règles du cricket.
Jamais 2 sans 3.
Alors, pour conjurer cette fatalité, Theresa May veut donc s'immoler. Ce chantage à l'anglaise ne devrait pas suffire. Il faudrait peut-être qu'elle rajoute une rançon. En même temps, le smog politique est si épais que les Brexiteurs les plus radicaux, comme Boris Johnson ou Jacob Rees-Mogg, peuvent se rallier. Hier soir, les honorables parlementaires ont voté sur 8 versions différentes du Brexit. Ils ont tout envisagé, le Brexit sans accord ou l'abandon du Brexit, et toute la gamme entre les deux, le plan B, mais aussi les plans C, D, E, F, G, H, I. Ils ne sont d'accord sur aucun, ils sont juste d'accord pour ne pas être d'accord. La semaine prochaine, il va bien falloir quand même trancher. 650 honorables parlementaires prennent tout leur temps, 500 millions d'Européens trépignent. Les Anglais s'en fichent, ils sont libres, sauf peut-être Theresa May. La semaine prochaine, si par miracle elle obtient une majorité, elle partira. Ils en feront alors la sainte de la patrie. Mais d'abord, ils vont la brûler vive.
Vincent Hervouette pour l'édito international sur Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Restez avec nous dans deux minutes, l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara. Bonjour Audrey.
Bonjour Nicos, bonjour à tous.
Qui est votre invité ?
Eh bien, en envoyant trois des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron devant la justice dans l'affaire Benalla, il y a tout juste une semaine, le Sénat a-t-il déclaré la guerre au président de la République ? Gérard Larcher, président du Sénat, sera mon invité.
A tout de suite.
Il est 8h16, Nico Saliagas.
Le président du Sénat et sénateur, les Républicains des Yvelines, Gérard Larcher, votre invité Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Gérard Larcher.
Bonjour.
Il y a une semaine, le bureau du Sénat décidait de renvoyer trois des plus importants collaborateurs d'Emmanuel Macron devant la justice, Alexis Kohler, Patrick Strodal, Général Lavergne. Résultat, vous êtes fâché avec le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale. Vous qui êtes réputé pour bien vous entendre avec tout le monde, ça doit vous faire un peu bizarre, non ?
Pas du tout. La décision du bureau du Sénat, une décision en droit. C'est l'article 6 de l'ordonnance de 1958. On ne doit pas mentir devant une commission d'enquête. Il y a une suspicion de mensonge. Et le bureau du Sénat a donc décidé, parce que le bureau n'est pas juge, eh bien, de déférer à l'autorité judiciaire, non pas les noms que vous donnez uniquement, mais
Alexandre
trois
Benalla,
noms.
Vincent
trois
Kras.
Noms. Mm-hmm. Monsieur Benalla, monsieur Kras. Monsieur Stroda, qui par ailleurs est un homme de très grande qualité, mais nous avons fait tout simplement le droit, et jamais parce que je l'ai entendu de politicaillerie.
Ah bah justement, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, est encore fâché puisqu'il refuse de s'afficher publiquement avec vous. La politicaillerie, écoutez, c'était ici même hier matin.
Très sincèrement, au plus profond de moi, je considère qu'on ne peut pas utiliser les outils de contrôle et d'évaluation de notre vie publique pour faire de la petite politicaillerie.
On ne va pas dialoguer, j'ai beaucoup Europe 1, Richard Ferrand et moi-même, on a des choses importantes à faire.
Vous
en matière
de
démocratie représentative, donc nous en parlerons ensemble. Je crois que nous avons aussi respecté un principe qui est la séparation des pouvoirs. D'ailleurs, qu'Emmanuel Macron avait rappelé au Congrès en juillet 2017. Vous savez, ce vieux principe de Montesquieu, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir.
Et pourtant, le Sénat, vous reconnaissiez vous-même ne pas avoir suffisamment d'éléments pour soupçonner les personnes dont on parlait de faux témoignages. C'est dans le communiqué du bureau du Sénat. Pas suffisamment d'éléments. Alors pourquoi les livrer à la justice ?
Je reprends le communiqué. D'abord, ça n'est que des suspicions.
Et pourquoi les livrer à la justice ?
Et pour les autres éléments, le reste, pardonnez-moi, je dois être le dernier à respecter le secret de l'instruction, mais je le respecterai.
Mais le pas suffisamment d'éléments, on se demande pourquoi renvoyer devant la justice ?
Non, mais c'est transmis au titre de l'article 40. C'est tout simplement notre devoir.
Gérard Larcher, vous n'avez pas pris part au vote, hein, vous vous êtes abstenu.
Non, j'ai voté.
Pour le renvoi devant la justice ?
J'ai voté le rapport de Mme Valérie Létard, la vice-présidente, donc j'assume mon vote.
Donc vous avez demandé à ce qu'il soit renvoyé
devant
la justice ?
J'ai voté donc le rapport, donc j'ai... Je ne suis pas simplement dans le rôle d'un procurateur romain, vous voyez, je ne me lave pas les mains.
Est-ce que vous avez vu Emmanuel Macron ou vous lui avez parlé, vous l'avez au téléphone depuis ?
Non, j'ai eu le Premier ministre, j'ai eu Richard Ferrand et naturellement nous avons des responsabilités. Vous savez les grands sujets aujourd'hui, vous les avez. Comment on sort du grand débat ? Je sens encore une tension très forte dans le pays. Vous savez, j'étais avec les maires de Lyon samedi, avec les maires de Savoie lundi, et il va falloir que nous sortions ensemble un certain nombre de propositions. Ça doit être notre tâche pour que le pays se retrouve et reprenne confiance en lui-même.
Et donc il faut sortir pour l'instant de ces crispations qui existent depuis une semaine.
Maintenant la parole et le travail appartient à l'autorité de justice et je lui fais confiance.
Emmanuel Macron est à nouveau en débat aujourd'hui dans le Maine-et-Loire, Gérard Larcher. Il faut dire que vous lui avez parlé et reparlé de décentralisation. Mais quand même, vous n'avez pas l'impression que ce grand débat est interminable ?
Je pense qu'il faut le poursuivre, non pas le grand débat, mais la relation avec le territoire. Et moi, je suis heureux que le président de la République aille à la rencontre notamment des maires. D'ailleurs, depuis 5 mois, il y a une grande figure dans la République, c'est le maire. La commune, la petite république dans la grande, 35 000 fois, c'est ce qui nous a permis de traverser cette période difficile. Mais
Emmanuel
si on
Macron
ne va pas
oublié.
Vers plus de décentralisation, c'est-à-dire de confiance dans la proximité, qui est d'ailleurs la demande des Français.
Ça avait été oublié.
Cette proximité.
Ça avait été oublié.
Bah, on avait une forme de verticalité et une espèce de doute. Et il faut que nous retrouvions cette décentralisation. Ce qui se fait bien en proximité, il faut le faire en proximité. Ce qui se fait mieux en mutualisant, il faut le faire. Voilà pourquoi le président de la République, commune, département, qu'il est d'ailleurs, une maladie, en train de redécouvrir dans son rôle de proximité sociale et territoriale. On parle beaucoup de la dépendance. Savez-vous qu'un des acteurs majeurs de la dépendance dans la cohésion sociale, c'est le département.
La revendication numéro un des Français, Gérard Larcher, c'est la réindexation des pensions de retraite. Le Premier ministre doit revenir sur sa décision d'août dernier.
Le Sénat lui avait demandé parce que c'était un mauvais signal. Nous sommes en pleine réforme des retraites. Jeudi dernier, d'ailleurs, il y a eu un grand colloque au Sénat autour du haut-commissaire et de l'ensemble des partenaires sociaux et des sénateurs de la Commission des affaires sociales. J'y ai participé. Il faut savoir que le débat autour de l'âge est en fait un débat un peu biaisé. Le sujet de l'âge, c'est d'abord dans un système en réforme par points, c'est quel sera le niveau du point, quelle sera la durée de la de cotisation, quel sera le montant de la cotisation. Sinon, il y a une espèce de miroir aux alouettes, on parlera de 62 ans,
alors,
mais avec une retraite moins élevée.
Emmanuel Macron et le gouvernement n'entendent pas bouger l'âge de départ à la retraite, 62 ans. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen proposent de le ramener à 60 ans. Valérie Pécresse et Xavier Bertrand veulent le repousser à 65 ans. Et vous ?
Vous savez, c'est le sujet de l'âge pivot. Ce qui m'importe, c'est que les retraités de ce pays aient des moyens de vivre. Un des enseignements du grand
vous
débat...
Vous ne donnez pas d'indication sur l'âge pivot ?
Nous savons que le paramètre de l'âge, il faudra y toucher.
C'est-à-dire,
alors,
à combien ?
On y touche, soit en parlant franchement aux Français, ce que je ne sais pas tout à fait ce que j'ai entendu depuis 15 jours, et en disant qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie, le paramètre de l'âge, il faudra le toucher.
Donc, faut aller à
combien ? Moi, je le dis aux partenaires sociaux, nous ne pourrons pas rester dans une réforme systémique, en tous les cas, dans un système à points, en faisant croire qu'à 62 ans, on aura une retraite à taux plein au même niveau qu'aujourd'hui.
63 ? 64 ?
63, 64.
65 ?
On n'est pas aux enchères.
Non, mais
on
j'aimerais bien avoir un chiffre
de...
dans votre bouche.
Non.
est-ce que vous avez eu l'idée de l'âge
pivot ? C'est le pouvoir de vivre. Et là, je reprends la formule de Laurent Berger. C'est le pouvoir de vivre que nous devons proposer à nos compatriotes.
Plutôt 63 pour vous, en tout cas. Et la décision donc de revenir sur cette désindexation, il faut réindexer les pensions de retraite.
Oui,
ça,
il
c'est
faut
sûr,
réindexer, hein. C'était un engagement. Et notamment, je pense aux retraites les plus modestes. Ceci remonte très fort, vous savez. Beaucoup nous écrivent en même temps. Et les maires nous envoient les cahiers dans les mairies et au Sénat. Et je dois dire que nous devons aussi traiter la dépendance sans la mêler à la question des retraites. Il y a un vrai sujet de dépendance dans ce pays. Déjà, deux gouvernements ont échoué. Le gouvernement de François Fillon, celui de Manuel Valls dans cette réforme. Le sujet de la dépendance est un sujet majeur. Nous savons qu'il va nous falloir trouver 10 milliards d'euros. Et la manière dont on accueille les aînés, c'est souvent le reflet de la société telle qu'on est capable de la construire.
Gérard Larcher, vous êtes membre des Républicains, donc est-ce que vous soutenez la proposition de Laurent Wauquiez dans une autre réforme majeure, hein, celle de la fonction publique, de supprimer 400 000 postes dans la fonction publique ?
Écoutez, je prends le texte tel qu'il est sorti du Conseil des ministres hier, et ce texte me semble intéressant parce que à la fois, il propose des pistes d'évolution au travers de la contractualisation, une autre manière de gérer notamment les commissions administratives paritaires, c'est un peu techno, mais pour ceux qui sont fonctionnaires, ils savent ce que ça veut dire. Le contrat de projet, je pense que on est sur un bon chemin.
400 000
et par nature, c'est pas 400 000.
Pour les Républicains.
Attendez, pas 400 000. Mon problème aujourd'hui est de dire que le gouvernement engage une réforme de la gestion de la fonction publique, que nous devons l'examiner, et que ça rejoint d'ailleurs un rapport qui a été fait par une de nos collègues, Catherine Di Folco, il y a quelques mois, pour le Sénat, à la Commission des lois.
Gérard Larcher, Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi quittent le gouvernement pour conquérir Paris. Deux ans après son élection, la majorité des proches de la première heure, des proches conseillers, d'Emmanuel Macron, sont partis. Ils sont partis. Est-ce que vous pensez que c'est salutaire ? Ou est-ce que vous pensez
d'abord,
que ces départs fragilisent le président ?
Que ceux qui sont candidats dans une mairie aussi importante que Paris, dans une mairie symbole, d'abord prennent le temps et ne mélangent pas leurs fonctions ministérielles avec leur candidature. Même si vous le savez, je suis plutôt pour un certain exercice d'un mandat exécutif local avec l'éventuel mandat parlementaire. Mais ceci est un autre sujet. Et paradoxalement, après avoir été rejeté par les Français, ceci est demandé dans le cadre du grand débat. Mais
les départs de Benjamin Griveaux de manière majoritaire.
Peut-être ça traduit un mode de gouvernance fait de verticalité. J'espère que le grand débat va nous permettre d'en sortir. Et peut-être de solitude du chef de l'État. Mais c'est à lui qu'il appartient de prendre les décisions. Je suis trop attaché à la Ve République pour ne pas dire que c'est la responsabilité du président et de lui seul.
Vous semblez déplorer quand même la solitude du président de la République.
C'est une observation que je me fais parfois. Il y a des moments, je pense, qu'il faudrait que nous partagions plus, y compris quand on a des débats, y compris quand on peut avoir des divergences, pour sortir de la crise dans laquelle on est, qui est plus profonde d'ailleurs que je ne l'imaginais. Vous savez, j'avais écrit il y a 3 ans plein de choses, la France d'à côté. Il y a vraiment une France en dehors. Et ça, c'est notre défi. Il faut qu'on la ramène dans la République, que nous fassions communauté nationale.
Merci beaucoup. Merci Gérard Larcher.
C'était l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara. Merci, monsieur Larcher.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol à 8h30. L'essentiel de l'info. Theresa May qui joue son va-tout. La première ministre britannique promet de démissionner si son accord de Brexit est adopté. Et puis, grève nationale aujourd'hui dans les crèches. Attention, casse-tête en prévision pour les parents des tout-petits.
A tout de suite avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 8h27. La prochaine demi-heure, Nikos.
La revue de presse avec David Abiker, déjà en studio. Quel est le mot-clé de ce que vous avez lu ce matin ?
Bonjour Céline, bonjour Nikos.
Bonjour David.
Les mots-clés, c'est les forts et les faibles. Il y a les personnes dépendantes, les personnes fragiles, les forts, ils font de la politique. Et à la une, ce matin, je voudrais mettre le Midi Libre qui ose le tabou de la sexualité des personnes handicapées avec une enquête fascinante.
Lui, il n'a aucun tabou, c'est Nicolas Canclou pour sa revue de presse à partir de 8h40.
Et tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Il dit quoi le ciel aujourd'hui, mon cher Laurent ?
Bien, il dit qu'il ne bouge pas beaucoup. Vous savez, nous avons toujours la même place de cet anticyclone là, qui est là avec nous depuis quelques jours, même plusieurs jours. Et il agit un peu comme un catcheur qui est sur le ring et puis qui, dès que quelqu'un arrive, hop, il le balance dehors.
Belle image.
Et là, dès qu'une dépression arrive, elle est absorbée, elle est rejetée, ce qui fait que nous avons encore, malgré tout quand même, des velléités nuageuses sur le nord, la Pas-de-Calais, la Picardie.
C'est le masque du catcheur, le nuage.
Un peu ça. Et puis, sur la Normandie, la région parisienne, la Champagne et les Ardennes, nous sommes là jusqu'aux frontières du nord-est, nous sommes dans des secteurs où les passages nuageux ne sont jamais absents. Mais l'impression, quand même, c'est une impression plutôt sympathique. Sur le Poitou-Charentes, le Massif Central, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, le Sud-Ouest et la vallée du Rhône, comme la Méditerranée, c'est vraiment très beau, donc pas d'inquiétude. Il fera beau et il fera un peu plus chaud car les vents tournent. Nous passons au vent sud maintenant et des valeurs entre 16 et 21 au nord et au sud pardon et entre 12 et 15 degrés au nord. Demain, ce sera presque la même chose avec un peu plus de soleil. Samedi, ce sera franchement beau. Alors là, allez-y à fond les amis.
Yes.
Dimanche, ça va se gâter sur toute la moitié nord. Et à partir de... Alors lundi, ce sera pas trop mal non plus. Mais à partir de mardi, là, nous changeons de temps. Nous basculons vers un temps beaucoup plus frais. Je vais dire beaucoup plus froid. Et je dis beaucoup plus froid. Beaucoup plus froid. Et j'en reparlerai tout à l'heure.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le jeudi 28 mars, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nikos Aliagas.
Le défi de la dépendance des personnes âgées au cœur du rapport remis ce matin à la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Il devrait par exemple proposer une nouvelle prestation autonomie fusionnant dépendance et soins. Pour le financement, le gouvernement exclut de nouveaux prélèvements. Theresa May abat une dernière carte. Elle promet de démissionner si son accord de Brexit est adopté. Hier, les députés britanniques ont voté contre tous les scénarios possibles. Jean-Sébastien Soldaigny a rencontré un militant anti-Brexit écœuré par cette indécision.
Je ressens beaucoup de frustration parce qu'avant, le monde entier nous voyait comme un pays au gouvernement méthodique, pragmatique. Maintenant, on donne l'impression d'être dirigé par une bande de clowns.
Retour en France, remaniement d'ici lundi. Il faut remplacer les 3 ministres qui s'en vont. Nathalie Loiseau, candidate aux européennes, mais aussi Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi, qui espèrent tous deux l'investiture en marche pour la mairie de Paris. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, il présente sa liste pour les européennes aujourd'hui, avec notamment le gilet jaune Benjamin Cauchy. Pas facile de confier son bébé à une crèche aujourd'hui. Grève dans toute la France contre les ordonnances qui doivent assouplir les règles d'accueil des tout-petits. Il y aurait notamment moins d'adultes pour s'occuper de chaque enfant. Julie Marty-Pichon du collectif Pas de bébé à la consigne imagine le pire, ou presque, deux adultes pour 12 bébés.
Je vous prends juste le temps du repas, par exemple, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec deux adultes pour 12 enfants qui ont besoin de manger entre 11h et 13h, vous faites comment, quoi ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un bébé, bon, écoute, il faut que tu attendes une heure, là, parce que là, je suis occupée avec deux autres et je ne peux pas te donner à manger, quoi.
Propos recueillis par Ève Roger. La marine maltaise a pris le contrôle d'un pétrolier détourné par des migrants. Le bateau les avait secourus hier soir au large de la Libye, mais certains migrants refusaient d'y retourner. Ils ont obligé l'équipage à se diriger vers Malte. Le navire est désormais escorté par la marine. Et puis, alerte aux dentifrices. Selon une étude de l'association Agir pour l'environnement, les deux tiers des dentifrices contiennent du dioxyde de titane et même la moitié des dentifrices pour enfants. Et c'est un colorant au possible effet cancérigène. Attention.
Europe 1.
Tout de suite, Nico Saliagas, on retrouve David Abiker pour sa revue de presse.
David Abiker, les plus fragiles, les plus dépendants font la une de la presse ce matin.
Dans l'actualité, oui, des forts et des faibles et des fragiles, avec la remise à la ministre de la Santé d'un rapport sur la dépendance. C'est le défi de la dépendance, titre Sud-Ouest, pour mieux prendre en charge le grand âge, poursuit l'Alsace. Mais derrière la déclaration de solidarité entre générations, c'est d'abord une affaire de gros sous. Un défi à 10 milliards d'euros, évalue le Figaro, dont le financement à la lecture du Parisien aujourd'hui en France pourrait d'ailleurs se résumer à cette formule que j'invente pour vous exprès, Nikos.
Oui.
Travaillez plus pour vieillir mieux ou moins mal. Les forts, puisqu'on a parlé des faibles, les forts, on les trouve ce matin dans les pages politiques des journaux. Ils veulent devenir maire de Paris, comme Mounir Majoubi ou Benjamin Griveaux, ou créer la surprise aux européennes, tel François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains qui s'offrent la une du Point et du Figaro. Mais être fort, c'est parfois se sacrifier, comme Theresa May, qui joue dans Les Échos sa dernière carte et offre sa tête si son camp vote son plan de sortie de l'Union européenne. Mais être fort, c'est aussi se soucier des plus faibles, comme Sylvie et Stéphanie, qui dans le Midi Libre se confient sur un travail social interdit. L'accompagnement sexuel des handicapés, pour beaucoup c'est de la prostitution, pour ces femmes fortes, c'est une mission.
Et ce matin, certains de nos confrères ont du cran. Ils assument ce qu'ils font. Nos confrères du Midi Libre s'attaquent au tabou du handicap et de la sexualité.
Et nous aussi, on assume, Nikos. Avant cela, je vais vous parler d'Ouest France qui fait sa une lui aussi sur le handicap avec une interview de la secrétaire d'État, Sophie Cluzel, qui entend dénoncer les mots qui blessent pour changer le regard sur le handicap. Changer le regard, ça ne change pas toujours la réalité. Eh bien, le Midi Libre l'apprend au mot, la ministre, et ose l'ultime tabou de la sexualité des personnes handicapées. À partir d'aujourd'hui, à Montpellier et jusqu'à dimanche, 17 volontaires participent à une formation pour devenir accompagnant sexuel, une activité que la société connaît mal et ne veut pas voir. Marcel Nuss, 64 ans, atteint d'une maladie génétique, préside l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel qui met en relation des personnes qui n'ont pas accès à leur corps, dit-il, avec des femmes comme Sylvie ou Stéphanie, respectivement auxiliaires de vie et éducatrices spécialisées. Toutes les deux considèrent ce travail rémunéré entre 150 et 250 euros comme un prolongement de leur travail social. J'ai rencontré des gens qui, à 45 ans, n'ont jamais été touchés sans gants en plastique. On parle beaucoup, ça commence par un massage et puis ça peut aller au-delà. Explique la première. Il faut lire ce matin le Midi Libre, constater que la loi fait de Marcel Nuss et de son association une sorte de proxénète bénévole, qu'il risque 7 ans de prison et 150 000 euros d'amende, que ce service est aujourd'hui reconnu en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Belgique. En France, on interdit, mais on ne poursuit pas. Ça s'appelle de l'hypocrisie, ça.
Des forts et des faibles, on en trouve aussi à la une de Libération ce matin, David Abiker.
Harcèlement au lycée militaire de Saint-Cyr, silence dans les rangs. Un an après avoir dénoncé le système de harcèlement moral orchestré au sein des classes prépa de Saint-Cyr par une minorité puissante de garçons appelés les tradis, Libération constate que rien n'a changé malgré les sanctions de la ministre des Armées à l'encontre d'une vingtaine d'élèves l'an dernier. On continue d'entendre « cuisse ». Dans les couloirs, au passage d'une jeune fille, ou de lire l'inscription SLG gravée au couteau sur certaines tables, SLG signifiant « sopo les grosses », autrement dit « les filles sont chiantes », c'est le langage local. Évidemment, c'est Libération, un journal de gauchistes qui a mené l'enquête, observe certaines autorités gradées. N'empêche, les faits sont têtus, on s'est calmé dans les rangs, mais un clan de jeunes hommes à la coupe de cheveux encore plus courte que ce qu'impose le règlement local continue à imposer sa vision du monde et des rapports
hommes-femmes à une majorité un peu trop silencieuse. Heureusement, dans la presse du jour, il y a Excalibur. Le Figaro revient ce matin sur une démonstration de force militaire effectuée dans la nuit du 3 au 4 février dernier dans le cadre de la dissuasion nucléaire aéroportée. Un dispositif digne d'une série télé avec des rafales, dont un équipé d'une vraie tête nucléaire, des Mirage 2000 et le ravitaillement en vol à 6 reprises par un Airbus 300. Objectif, défendre les intérêts vitaux de la France au bout du monde. Ce qui nous conduit à ouvrir le hors-série de Philosophie Magazine pour terminer, intégralement consacré à la série Game of Thrones, dont la dernière saison débute le 15, gros porteur, le 15 avril. Game of Thrones, c'est la série la plus regardée au monde. Sans doute parce qu'elle raconte un monde imaginaire comme si c'était le nôtre, celui qu'on traite tous les jours dans l'actualité. Vous avez dedans des forts et des faibles. Les faibles peuvent devenir forts. Les femmes ne s'y laissent pas faire. On y trouve même un nain qui fait l'amour plus souvent qu'à son tour. On y parle aussi du changement climatique qui menace avec l'hiver glacé qui avance. Et il y a des dragons qui font office de dissuasion nucléaire. Bien sûr, on s'y bat non pas pour conquérir le fauteuil d'Anne Hidalgo, mais pour réunir des contrées tout aussi divisées que les nations actuelles de l'Europe. Game of Thrones fait réfléchir, comme Philosophie Magazine, qui propose à sa une cette citation de Nietzsche qui pourra faire réfléchir la classe politique. « Ils veulent tous s'approcher du trône, c'est leur folie. »
Certains appellent ça le Graal, d'autres le trône. D'aucuns le pouvoir, mais vous le décryptez à merveille dans la revue de presse. C'était David Abiker.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il arrive dans quelques instants. Nicolas Canteloup et sa revue de presse, inimitable, incontournable. Et il nous fait du bien, tout de suite.
Avec Nikos Aliagas sur Europe 1, il est 8h38. Il est 8h41.
Monsieur Canteloup, c'est à vous. Julie est dans la place.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Avec vous, Nico, ce qu'on va retrouver pour le titre principal de l'actualité.
Et oui, ma chère Julie, pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu excité. Bonjour à tous, chers auditeurs. L'actualité ce matin, ce morning, c'est bien sûr le sujet de la dépendance. Et je suis allé en immersion, Europe 1 va plus loin, en immersion dans un EHPAD, tout de suite, reportage. Voilà, je me suis donc téléporté ici, dans un EHPAD. Vous savez que d'ici 2050, le nombre de personnes âgées va tripler. Ça va faire de sacrées audiences pour Michel Drucker. Je suis donc à l'accueil. Derrière, on voit les photos, des photos absolument magnifiques, moins bien que les miennes, mais que nos auditeurs peuvent admirer. Si jamais les personnes âgées s'enfuient, fuguent, eh bien, ils sont fichés. Comme au FBI, je suis face à une porte, et derrière cette porte que je vais ouvrir, une dame âgée qui a tant à nous apprendre de la vie qu'elle a passée derrière l'expérience qu'elle a vécue. Bonjour, madame.
Oh, Nikos Aliagas.
Oui, merci. Quel âge avez-vous, madame? Je vous regarde. Je regarde votre visage, vos mains. Vous devez bien avoir, je ne sais pas, 95, 96 ans. Vous dessinez une chouette, c'est chouette.
Non, alors non, je suis moi la fille de Madame Fabre. Ma mère est là. Moi, j'ai 48 ans.
Pardon. Désolé. Bonjour. C'est donc votre maman à côté de vous. Bonjour, madame. Alors, vous ne faites pas votre âge. Vous avez quel âge, madame?
Oh, je ne sais plus.
En tout cas, vous ne les faites pas.
Quand j'étais jeune, savez-vous que j'avais un petit ami qui faisait de l'équitation.
Il faisait de l'équitation, c'est fou, ça.
Et je vais au concert de piano.
Le concert de piano, le piano, et oui, le piano, c'est fantastique.
Vous savez que j'aime la soupe.
Oui, moi aussi. Moi aussi, de temps en temps, je me souviens, j'ai mangé déjà de la soupe comme vous. On a des points communs quelque part. Bon, je vais vous laisser. Bonjour, monsieur. Je me tourne vers un monsieur. Vous faites quoi, monsieur, avec porter des lunettes noires? Qu'est-ce qui se passe?
Bon, je sais pas. Franchement, je sais pas ce que je fous là. J'ai un bulletin météo à faire, moi.
D'accord, voilà. Je quitte cette EHPAD. Je pense que Bernard de la Villardière fait la prostitution et la drogue à la Barbade, moi je me tape un EHPAD. Mais on ressort de là, oui, en ayant chaud au cœur, en croyant en l'humanité, voilà. Et au regard de l'autre. À vous, Julie.
Merci, Nico. Ouais.
Surround, hein, tu l'as bien fait. Bravo, Nicolas.
Benjamin Griveaux quitte le gouvernement pour se lancer dans la bataille pour la mairie de Paris. Bertrand Delanoë, vous avez été maire de Paris. Est-ce qu'il peut battre Anne Hidalgo ?
Bonjour tout d'abord ma chère
Bonjour
Julie.
Bonjour Bertrand.
Mon cher Nico Saliaga. Salut Meloukoum, ça va ?
Bonjour, très bien monsieur le maire.
Dites donc, ça n'arrête pas ces candidatures à la mairie de Paris. Il y en a une par minute. Mounir Majoubi, Rachida Dati, Gaspard Ganzer, ma belle-sœur, mon charcutier, Laurent Cabrol, une brique de lait, Cédric Villani, oh le vilain, et maintenant Benjamin Griveaux.
Non, c'est Griveaux.
Il est Griveaux. Il est Griveaux à vouloir prendre la place de mon âne.
Mais c'est un gros candidat hein, qui vient de se lancer dans la bataille. Les sondages le donnent à 22% et Anne Hidalgo à 24%. L'écart est ténu.
22, 24. Sûr de vos chiffres, ma chère Julie. 24% pour mon âne, 24%. 24% vous dites. Donc il y aurait 24% de socialistes. Je suis déjà étonné qu'ils aient trouvé des socialistes interrogés. Alors, je croyais qu'il n'en restait plus, franchement. Je sais de source sûre qu'il y a un couple aux eaux de Vincennes et que Greenpeace en a mis 5 dans une réserve, mais en liberté dans Paris, je suis dubitatif.
Bertrand, qu'est-ce que vous pensez de Benjamin Griveaux ? Ça peut être un bon candidat, non ?
Un bon candidat, Benjamin Griveaux. En tout cas, il a deux qualités qu'il faut lui reconnaître. Il est très arrogant et les provinciaux le détestent. Ça prouve au moins qu'il est très parisien.
Voilà une bonne analyse. Merci Bertrand Delanoë.
Ça va lui faire plaisir.
Justement, tiens, Anne Hidalgo est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour. Alors, à tous les parisiens et toutes les parisiennes.
Avant de parler de Benjamin Griveaux, tiens, je crois que vous êtes sur les Champs-Élysées pour l'ouverture des Galeries Lafayette. Est-ce que tout se passe bien ? Vous êtes dans le magasin, là ?
On ne peut rien vous cacher, Madame Julie, tout à fait. Je suis dans le magasin, je lèche des vitrines, puisque celles-ci ne sont pas cassées. Je me sens dans la peau d'une reine de la SAP. Voilà, Paris bouge, et vous le voyez, les Champs-Élysées bougent aussi, de plus en plus. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé qu'en termes d'animation, on propose déjà depuis 18 samedis de suite des défilés du 14 juillet tous les samedis sur les Champs-Élysées avec des défilés de nos forces armées. Qui dit mieux dans le monde ? Et aujourd'hui, ce beau magasin avec son ouverture.
Voilà, donc l'enseigne ouvre aujourd'hui jeudi, c'est ça ?
Tout à fait, ça ouvre le jeudi, voilà, ce jeudi. Ça fermera donc vendredi par précaution et ça brûlera samedi.
Ne manquez pas
donc le Black Saturday.
Mais on ne dit pas le Black Friday ?
Non, le Black Saturday. Ah. Enfin, le Black Block Saturday. Les casseurs démolissent les vitrines. Oh là là. Et si vous voulez un article, le deuxième est gratuit.
Alors, un mot sur la candidature de Benjamin Griveaux.
Écoutez, Benjamin Griveaux, déjà que c'est à cause de ses amis du gouvernement que les Gilets jaunes ont cramé les champs. Non, à mon avis, s'il est élu, il faut prévenir les Parisiens et les Parisiennes. La Tour Eiffel sera découpée à la scie sauteuse par des Black Blocs.
Bon, allez, merci Anne Hidalgo. Une information insolite maintenant. La NASA a annulé la sortie dans l'espace de deux femmes parce qu'il n'y avait plus de combinaison à leur taille, en taille M. C'est fou, hein ? À Europe 1, on vous propose de découvrir un enregistrement exclusif de la NASA. On a ça.
Allô ? Allô, station spatiale, ici Houston. C'est bon, vous pouvez sortir dans l'espace. Bonne chance, les filles.
Allô, Houston, négatif, on ne peut pas sortir, nous n'avons pas la bonne tenue.
Les filles, c'est... Station spatiale, les filles, c'est pas une boîte de nuit, c'est l'espace. Vous avez une tenue dans votre placard.
Négatif, Houston, on ne peut pas sortir avec.
Station spatiale. Vos chaussures sont pas sorties de votre sac à main, c'est ça ? Vous avez pas le bon rouge à lèvres ? Vous sortez, hein ? Et puis c'est tout ! Putain, les bonnes femmes, je te jure.
Houston, ne soyez pas idiot, nous n'avons pas de tenue en taille M.
Ok, bien reçu la station spatiale. On me dit ici qu'on vous avait dit de faire du sport avant de grimper dans cette putain de fusée, hein ? Colonel Hartmann, vous avez dit que vous deviez perdre du cul, hein ? Alors pensez un peu, de toute façon, il n'y a pas de boutique de fringues entre Saturne et Jupiter, merde !
Mais Houston, mais vous êtes con quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette attitude sexiste ? On n'a pas la bonne tenue, on n'a pas la bonne taille, vous avez oublié de nous fournir la taille M. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas sortir comme ça ?
Bon, colonel, on annule la mission. Voilà. Vous êtes contente ? Station spatiale, hein ? Toujours un problème avec les gonzesses, même à 10 000 km, merde.
Eh ben merci pour cet excellent documentaire. Et puis la presse est revenue sur l'explosion des émissions de faits divers à la télé. Faites entrer l'accusé, enquête criminelle, crimes et faits divers, chroniques criminelles, non élucidées, il y en a plein. Hein. Les émissions se bousculent. Jean-Marc Morandini, bonjour.
Eh oui, Julie. En effet, il y a beaucoup d'émissions de crimes et de faits divers à la télévision, notamment la mienne. Ça fait beaucoup d'émissions qui, malheureusement, parlent toujours, oui, vous l'avez remarqué, des mêmes affaires. Et oui, à 36 émissions par semaine, on a passé de meurtres dégoûtants avec des mères de famille picardes qui attaquent leur vieille tante Marguerite avec un râteau. Aussi, est-ce que je peux me permettre de passer un message sur votre antenne?
Bah, allez-y, hein, ouais.
Bonjour, c'est Jean-Marc Morandini. Votre femme vous saoule, votre voisin n'a pas été sympa ce matin avec vous, votre boulanger n'avait plus de chouquette, eh bien n'hésitez pas, les tuer est peut-être la solution à vos problèmes.
Non, enfin ça va pas dire ça.
Attendez, laissez-moi faire, je suis en train de sauver les émissions. Décapitation, incendie, volontaire, accident de voiture légèrement provoqué, savez-vous que parfois tuer quelqu'un fait du bien et peut résoudre des problèmes. Enfin au moins ça résoudra le nôtre de problème vu que... comme on galère à trouver des faits divers. Alors pensez-y, un coup de tondeuse à gazon dans la gueule de tonton et vous passez la télévision.
Et voilà, radio.
Merci Nicolas Canteloup, merci beaucoup et Julie quotidiennement. Et on se retrouve à la même heure demain. Merci. Le tour de la question, Wendy Bouchard, bonjour.
Bonjour cher Nikos, chers amis.
Vous parlez de quoi ce matin?
Alors,
cher
je vais revenir sur votre immersion à 7h45 en EHPAD. Vous savez le système est très binaire en
pas
France.
Pas la version Canteloup, j'espère.
Non, évidemment. Vous avez ou le maintien à domicile que préfèrent évidemment toutes les familles, ou quasiment aujourd'hui 800 000 personnes en maison de retraite, les fameux EHPAD. Aujourd'hui, on essaie de trouver une troisième voie. Il y a un rapport sur la dépendance qui est remis ce matin, qui cherche également à valoriser les métiers d'aide à domicile, qui sont fondamentaux. S'il n'y avait pas les aidants, s'il n'y avait pas 11 millions d'aidants aujourd'hui, on n'aurait pas autant d'hommes et de femmes qui restent heureusement vieillissant tranquillement à la maison. On va vraiment s'interroger au vieillissement de notre population et ce qu'on se prépare suffisamment bien en France. Vous dites non à 94%, preuve que l'heure est grave, et on vous donne la parole au 39-21.
Passionnant.
Et la parole justement, eh bien, il en sera question de 10h à 11h. Briller à l'oral pour les nuls, c'est un livre qui est publié aujourd'hui par Charles Haroche, avocat et coach en prise de parole. Il était aussi juré pour le grand oral sur France 2. Nous serons également avec Bill, le lauréat de ce concours. Il y a tout un tas de joutes verbales, de concours oratoires qui séduisent de plus en plus les jeunes. C'est une tendance et on en parlera car l'éloquence, ça fait beaucoup pour la vie quotidienne aussi.
Et prendre la parole, c'est en quelque sorte prendre sa vie et son destin
absolument
en main.
Merci
Wendy Bouchard. À partir de 9h sur Europe 1.
À suivre la météo avec Laurent Cabrol et puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1. Il est 8h53, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nikos Aliagas, mais tout de suite on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Le printemps, mais au sud apparemment.
Oui, alors le printemps, justement, ce n'est qu'un mot, puisque nous allons avoir un petit parfum d'hiver. Vous savez qu'en fait, le printemps, c'est quoi? C'est l'hiver en été ou l'été en hiver, c'est-à-dire que les deux saisons se mélangent, et nous avons donc tantôt un petit coup de chaud, tantôt un petit coup de froid. Et c'est ce qui nous arrive en ce moment. Alors, rapidement, à grandes enjambées, je vais vous dire qu'aujourd'hui, c'est un peu comme hier, les nuages qui sont très présents sur l'extrême nord vont se déchirer, se dissiper légèrement. Sur Paris, ce sera lumineux, et plus nous irons vers le sud, plus il fera beau. Paris, ce sera lumineux, mais il y aura un passage nuageux. Demain, vendredi, ce sera beaucoup mieux sur l'ensemble de la France. Moitié nord, lumineux, je reprends le mot, et sur les deux tiers sud, ensoleillé. Samedi, fera beau presque partout. Quelques petits passages nuageux près de la Manche et la mer du Nord. Nous sommes là dans les températures, sur les températures qui sont des températures agréables, entre 16 et 20, 21, 22 degrés, pour ces jours à venir, c'est-à-dire vendredi, samedi. Dimanche, ça se gâte, mais là, c'est juste un peu... Allez, une petite parenthèse. Sur la moitié nord, notamment quelques petites pluies en Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Dijonais. Et sur la moitié sud, il fera presque beau. Je poursuis. Cramponnez-vous, mes amis.
Oui,
on poursuit.
On se cramponne.
Lundi. Ça sera pas mal du tout. Et mardi, ça bascule. Ah. Alors là...
Le froid est de retour mardi.
Le froid est de retour. Les vents auront tourné. Ce sont des vents polaires qui vont descendre. Pour l'instant, on est sur 70% que le scénario sera celui-là. Nous allons voir descendre l'air polaire et nous allons assister la semaine prochaine à l'arrivée du froid avec de la neige à partir de 200, 300, 500 mètres selon les régions. Et on n'est pas dit que le ciel sera forcément mauvais, sera forcément agressif, mais le froid sera bel et bien là avec des gelées matinales, etc., etc. Donc il va faire froid. C'est le fameux scénario où l'hiver passe et côtoie l'été, et c'est l'hiver qui prend le dessus.
Donc attention, n'attrapez pas froid. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Nous sommes le jeudi 28 mars, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nikos Aliagas.
L'essentiel de la matinale avec tout d'abord la dépendance des personnes âgées au cœur de l'actualité. Un rapport remis aujourd'hui au gouvernement, c'est un enjeu de société car d'ici 2050, le nombre des plus de 85 ans va tripler. La moitié seront dépendants. À 7h45, je vous emmenais dans un EHPAD de la région parisienne à la rencontre de ceux qui accompagnent nos aînés au quotidien, comme Marc, le directeur, ou Fatima, la jeune auxiliaire de vie. Écoutez un extrait.
Nous sommes l'un des derniers domiciles, sinon la dernière résidence de nos aînés. Il y a malheureusement beaucoup de résidents qui ne reçoivent personne. Voilà pourquoi nous accueillons énormément de stagiaires de lycées de toute l'Île-de-France qui viennent assurer ce lien intergénérationnel indispensable.
On leur fait la douche, on les stimule à manger, être là quand ils en ont besoin.
Il y a des moments difficiles ?
Oui, des fois on a des résidents agressifs.
Quand on passe du temps avec des personnes âgées, est-ce qu'on grandit aussi ?
Oui, parce qu'on apprend beaucoup de choses avec eux.
Nous étions en immersion dans un EHPAD de région parisienne. À partir de 9h, Wendy Bouchard reviendra sur la dépendance des personnes âgées, puisque c'est au cœur de l'actualité. C'est de la politique aérie, dénoncée hier à ce micro Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, réagissait au renvoi par le bureau du Sénat de hauts collaborateurs du président de la République devant la justice, dont Alexandre Benalla et Vincent Kras. Écoutez la réponse ce matin du président du Sénat, Gérard Larcher. Il était l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15.
La décision du bureau du Sénat est une décision en droit. On ne doit pas mentir devant une commission d'enquête. Nous avons fait tout simplement le droit. Et jamais de politique aérie. Je crois que nous avons aussi respecté un principe qui est la séparation des pouvoirs. Vous savez, ce vieux principe de Montesquieu, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir.
À 7h12, c'était la voix de l'homme du soir, du journaliste du soir, du grand journal que vous connaissez, Mathieu Béliard. Il nous a emmené en balade ce matin sur le circuit des 24 heures du Mans. Il n'était pas à bord d'un bolide. Il était dans un tout nouveau véhicule qui devrait très vite faire son apparition dans notre quotidien. Écoutez bien.
Je suis dans une Navia. La Navia, c'est une navette autonome. Écoutez. Il n'y a rien à entendre.
Ben voilà.
C'est normal, c'est une voiture électrique, donc sans émission de CO2, sans volant, sans conducteur. Ça y est, la voiture autonome arrive. Il faut qu'on la décrive un peu. On est dans un genre de tout petit minibus. La première idée de cette navette pour l'instant, c'est de transporter des personnes à mobilité réduite, c'est de transporter des personnes isolées. Il y a déjà une utilité et c'est ce qui va se mettre en place rapidement.
Mathieu Béliard dans la navette autonome Navia, retrouvé dès 17h ce soir sur Europe 1 pour un grand journal du soir spécial en direct du Mans avec comme invité exceptionnel l'aéronaute suisse Bertrand Piccard. Voilà pour l'essentiel de la matinale. Merci de nous avoir fait confiance ce matin encore. Bravo à toutes les équipes techniques et éditoriales. Prenez soin de vous. À demain, Céline Dacosta.
À demain, Nico, c'est
Wendy
plaisir.
Bouchard.
Nous sommes là avec Julie, on vous attend au standard 3921. À demain, l'ami Nikos.
Je vous embrasse.